Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bonjour tout le monde, bonjour, bienvenue, comment ça va les petits amis, bonjour, alors attendez, on est toujours, merde, j'ai pas changé, on est toujours en Flight Simulator. Bah c'est parti, on est reparti en vol, hein, c'est obligatoire, hein, c'est la règle. Non, je déconne, hop, tac, ça c'est bon, c'est changé, merci, au revoir. Est-ce que tout le monde va bien? Est-ce que vous avez passé un bon week-end? Est-ce que vous êtes bien amusé ce week-end? Nous, on a un peu forcé. Alors nous, ouais, bon, pour ceux qui étaient là avec moi ce week-end, c'est vrai qu'on a un petit peu forcé sur la... sur le stream, sur Flight Simulator, parce que putain, on a fait deux streams de 8 heures, je crois, samedi et dimanche, et c'était extrêmement cool, on a bien rigolé. Combien d'heures de vol? Bah ouais, je te dis, en un week-end, on a dû voler 14 heures. 14 heures, 15 heures de vol. C'était cool. On a bien rigolé. Est-ce que c'est grave? Non, c'est pas grave. Non, c'est pas grave, on a passé un super moment. Merci Lord Tassine. Merci beaucoup. J'ai cuisiné un curry vert en écoutant les streams avec les navions. Ah ouais? T'as vu, c'est chill comme stream, hein. C'est très détente. C'est très contemplatif. Attends, j'ai perdu ma gourde. Je vais chercher de l'eau, j'arrive. Hop, mettre là, heureux, j'ai cru voir passer un streamer, ouais, c'est une erreur, les streamers ils sont pas censés passer comme ça. En direct de mon TGV vers la Bretagne, qui a du retard, avec Starlink tu vas regarder des streams depuis ton siège de passager. Hop, il faut que je change aussi un truc. Subcount, tac, 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 voilà. Voilà. C'est bon, c'est fait. Du coup, on peut saisir l'ARCOM ou pas? Pourquoi tu veux saisir l'ARCOM? Sur quoi tu veux saisir l'ARCOM? Parce que c'est pas du Flight Simulator? Oh merde. Terrible, absolument terrible. Non, on va se faire une petite revue d'actu aujourd'hui. On va se faire une petite revue d'actu politique, sachant que cette semaine est une semaine chargée, une semaine particulière, puisque demain, il y aura une émission Backseat. Exceptionnellement, ce n'est pas un jeudi, c'est un mardi. Émission Backseat que nous faisons en partenariat avec Frontal, le service de libération qui s'occupe de l'extrême droite. Et nous faisons cette émission à Toulon. Émission spéciale sur le thème de l'extrême droite et des élections municipales. Voilà, ça va être chouette. Il n'y aura pas d'invité politique. Il n'y aura pas d'invité politique particulier. On sera avec des journalistes de Libération en plateau, avec des chroniqueurs. On va vous présenter tout le monde demain, évidemment. Et il y aura par contre des invités particuliers qui sont des Toulonnais et des Toulonnaises, des personnes du département du Var qui sont concernées par la montée de l'extrême droite. Et voilà. C'est à quelle heure Backseat demain? C'est à 19h. Je crois que c'est l'heure normale de Backseat. T'as raison, j'ai pas vérifié. J'ai pas envie de te dire de conneries, mais dans mon souvenir, c'était bien 19h. Backseat. Ouais, 19h. Ouais, c'est ça. C'est bien 19h. Quel enfer Starlink. Apparemment, ça marche très bien Starlink. Je sais pas, j'ai jamais essayé, j'en ai pas besoin. Moi, j'habite à Paris, tout va bien. Mais apparemment, ça marche très très bien. Je sais même pas combien ça coûte, je connais pas. Est-ce que tu sais à combien de personnes est la jauge? Je suis sur liste d'attente. Non, ce que je sais, c'est qu'on a rempli la jauge. Et qu'on a fait une liste d'attente pour si jamais il y a des no-shows, qu'on puisse faire rentrer des gens en plus. C'est pour ça qu'on a fait une liste d'attente. Depuis que les soldats russes n'ont plus Starlink, les Ukrainiens reprennent l'avantage. Oui, j'ai appris ça. J'ai appris que Elon Musk avait coupé Starlink aux Russes. Je trouve ça fou. Je trouve ça fou que une guerre dépende des désiderata d'un milliardaire à l'autre bout de la planète, dans un pays qui n'est même pas impliqué directement. C'est une dinguerie de plus. Ouais, non, c'est fou. C'est le monde dans lequel on vit. Hein. C'est le monde dans lequel on vit. Il va falloir s'y habituer. Toutes ces heures de jeux vidéo, tu te sens pas plus violent maintenant? Si, si, je suis violent. Je me sens violent. J'ai de la colère en moi. À cause du jeu vidéo. À cause de Flight Simulator. À cause des bugs. Du coup, c'est que des invités demain ou bien il y a aussi des chroniqueuses backseat. Il faut regarder. Les réseaux sociaux de Backseat, vous avez toutes les réponses à toutes vos questions sur le compte Instagram de Backseat, sur le compte Blue Sky, la newsletter siège arrière aussi. Et demain, comme chroniqueur de Backseat, il y aura Malek et Climarx. Est-ce qu'il y a encore du monde sur Blue Sky? Il y a de plus en plus de gens sur Blue Sky. Hein. Blue Sky ne fait que monter. Moi, je suis plus que sur Blue Sky. Je suis plus que sur Blue Sky. Depuis que Twitter est devenu un forum d'extrême droite comme un autre, moi, j'ai plus beaucoup l'intérêt d'y aller. Je peux y aller ponctuellement pour aller chercher une info précise, un communiqué de presse, un truc comme ça d'un politique, mais j'y vais plus du tout. De toute façon, moi j'ai quitté Twitter en 2023. On est déjà en 2026. Putain. Et le temps passe vite, hein. Merci Tewata. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui va empêcher Blue Sky de connaître les mêmes dérives que Twitter? Je sais pas. J'espère qu'il y a une meilleure modération. C'est tout. Comme la modération qui existait à une époque sur Twitter, quoi. Je devenais agressif sur X, c'était beaucoup trop mauvais pour moi. Bah c'est le but, c'est le but. C'est le but, c'est à ça que ça sert. Twitter, ça sert à vous énerver. Ça sert à chatouiller votre jauge d'énervement. Parce que c'est ça qui crée de l'interaction, c'est ça qui crée de l'engagement. Il faut énerver les gens. Il faut cliver au maximum et tout. L'algo de Twitter est fait de telle manière que vous devez vous indigner du moindre tweet. Et c'est très bien si vous le faites. Si vous tweetez, c'est que Twitter a réussi son pari. C'est à ça que ça sert. C'est un peu le paradoxe. C'est qu'on est dans une bulle de filtre, dans une bulle informationnelle, et en même temps, on est projeté sur des contenus qui nous irritent pour nous faire réagir. Pour toi, YouTube et Twitch, c'est des réseaux sociaux? Non, c'est des plateformes de diffusion. Maintenant, toutes les pastilles bleues font que du rage bait pour l'engagement. Ouais, bah oui, les pastilles bleues, ils payent maintenant. Forcément. Moi, je me souviens de l'époque où les pastilles bleues, c'était des pastilles pour faire la différence entre des comptes anonymes et des comptes vérifiés de personnalités ou d'organisations qui ont pignon sur rue. C'était ça à l'époque. Ça marchait comme ça. comme sur Blue Sky désormais. On peut payer sur Blue Sky pour avoir la petite pastille bleue, là? Je sais pas. Non? Moi, j'ai pas payé, moi. Oui, c'est ça, c'est une vérification. Oui, c'est une vérification, oui. Oui, c'est un processus de vérification. Il faut montrer patte blanche, machin. Prouver que c'est bien toi. Je comprends pas que les politiques communiquent via X. Bah, en fait, non, mais il faut bien comprendre un truc, c'est que Twitter a été, pendant très longtemps, pendant plus de 10 ans, ça a été le réseau social de référence de la politique et des médias. Pour les gens comme moi, Twitter, c'était le réseau social le plus important. Parce que c'était celui sur lequel j'allais retrouver tous les journalistes, tous les politiques, tous les médias. Donc t'as tous les médias qui partagent leurs articles, t'as tous les journalistes qui partagent leurs articles qu'ils ont écrits dans les médias, et t'as tous les politiques qui tweetent, qui communiquent, qui s'expriment, qui disent des choses, qui partagent notamment des tribunes qu'ils ont écrites, etc. Machin. Ça a été ça, Twitter, pendant très longtemps. Twitter était véritablement le réseau social de référence pour la politique. Et donc, il y a des politiques qui ont du mal à partir de Twitter, ce que je peux comprendre, évidemment. Je ne suis pas là pour avoir un jugement. Je peux comprendre que ce ne soit pas facile de quitter des dizaines, voire des centaines de milliers de followers du jour au lendemain pour aller se recréer un compte sur un autre réseau social où tu auras beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de gens. Moi, je vais vous donner un exemple. Je ne suis pas une personnalité politique, pas du tout. Mais je suis une personnalité publique. Sur Twitter, quand j'ai quitté Twitter, j'avais 100 000 followers. Et je suis sur Blue Sky, j'en ai 37 000. Donc j'ai divisé par 3 mon nombre de followers. Merci, Hermine. Bon, bah, c'est pas grave. Enfin, je l'ai fait. Maintenant, c'est fait. C'est comme ça. Mais je peux comprendre pour un politique qui est en campagne, par exemple, que ce soit un peu chiant de quitter Twitter, quoi. Je peux comprendre que ce soit pas facile. Pareil pour les médias, pareil pour machin. Est-ce que t'as autant de haters sur Blue Sky? Non. Sur Blue Sky, l'ambiance, elle est beaucoup plus détendue, hein. Alors, je suis peut-être dans une bulle, hein, c'est possible que je sois dans une bulle. Mais en tout cas, dans ma bulle, elle est vachement plus respirable que la bulle de Twitter, quoi. Twitter, c'est vraiment un réseau de cyberharcèlement organisé, un réseau de haine, de colère, d'indignation en permanence, surtout, tout le temps. Tout le monde s'énerve, tout le monde se rentre dedans. C'est un peu les gens qui dansent le pogo, tu vois. Voilà, c'est un peu ça. Bon, bah, il y en a qui aiment, puis il y en a qui se cassent, parce que vraiment, c'est pas leur truc. Je suis d'accord avec toi et je vais aller poster un message le disant sur Twitter. Ben non, tu t'es trompé. Ben non, sur Twitter, on dit pas qu'on est d'accord avec quelqu'un. Sur Twitter, on tabasse les gens avec qui on n'est pas d'accord. C'est mieux. C'est à ça que ça sert. Il y a plus de respect dans un pogo que sur Twitter en vrai. Oui, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Ah non, Twitter, c'est irrespirable. Hein. Twitter, c'est d'une violence. Enfin, j'y vais quasiment plus. Hein. D'ailleurs, c'est pas du tout dans ma routine. Je dois y aller une fois par semaine pour aller chercher une déclaration pour regarder la campagne de Rachida Dati. Je check son compte Twitter. Mais je regarde plus les tweets des gens, je scrolle plus du tout sur Twitter. D'ailleurs, taper sur les gens sur Internet, ça les fait changer d'avis, c'est connu. Ouais, ça les fait changer d'avis, ouais. Et à défaut de les faire changer d'avis, ça fait du bien à la personne qui tape. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle le fait. Dans un pogo, si quelqu'un tombe, tout le monde s'arrête pour le relever. Sur Twitter, tout le monde s'arrête pour te terminer la mâchoire. Ouais. Oui, c'est clairement ça, oui. Non, je ne sais pas, je dis ça, mais vous, vous utilisez Twitter ou pas? Est-ce que c'est un réseau sur lequel vous allez, disons, au moins une fois par jour? Je vous dis pas de tweeter vous-même, je vous dis pas d'écrire des messages, mais d'y aller pour checker, lire un peu ce qui se passe, scroller vite fait, checker au moins une fois par jour, quoi. Merci, Willing. Ok, d'accord, vous êtes quand même nombreux à y aller quand même de temps en temps. Non, j'ai arrêté il y a 5 ans, non. Ah ouais, le peuple est divisé. Est-ce que ça marche si je fais un slash poll? Ah ouais, ça marche. Hop, 2 minutes, c'est trop long. On va mettre 1 minute. Voilà. On peut faire un petit... D'accord, ok. Donc, je peux relancer mes... Je peux relancer mes sondages depuis le chat. Tout va bien. Parce que j'ai changé de système de chat. Mais bref, c'est pas très important. J'ai quitté il y a plusieurs années maintenant, mais j'ai techniquement encore un compte. Ok. Moi, c'est pareil, j'ai toujours un compte. Mon compte est toujours ouvert pour éviter de me le faire piquer par quelqu'un d'autre. Mais j'y vais plus pour autant, quoi. T'as supprimé ton compte? Bah moi, je peux pas me permettre de supprimer mon compte. Si je supprime mon compte, il y a un petit rigolo qui va pouvoir reprendre le at Twitter Jean Massier pour écrire des conneries dessus. J'aimerais bien arrêter. Alors moi, la technique, quand même, pour arrêter Twitter, ce que j'ai fait, c'est que j'ai directement supprimé le raccourci dans mon navigateur, l'application de mon téléphone. Donc ça, déjà, ces deux choses-là, c'est fait. Et je les ai remplacées par Blue Sky. Il y avait Thread aussi, à un moment, Thread, l'application d'Instagram. Mais j'y vais plus non plus. Mais bref, j'ai remplacé. Et comme ça, je suis forcé, quand j'ai la bougeotte sur mon téléphone, quand j'ai la bougeotte et que j'ai envie d'aller checker quelque chose, j'ai mon application Blue Sky qui est en bas, qui est directement accessible. Et du coup, je me trouve sur Blue Sky. Et je tombe sur Olivier Besancenot. Disons que c'est une autre ambiance. C'est une autre ambiance. Est-ce que tu as des idées de comptes à suivre sur Blue Sky pour pas être paumé? Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, sur Blue Sky, il y a un truc qui n'existe pas sur X, qui s'appelle les listes de follow. Ça ne s'appelle pas comme ça, ça s'appelle comment déjà? Ceux qui savent, je veux bien que vous m'aidiez. Ça porte un nom, les Starter Packs. Merci, les Starter Packs. Les Starter Packs, ce sont des listes qui sont faites par des utilisateurs qui te recommandent des gens à follow. Et par exemple, tu as des Starter Packs politiques, avec plein d'élus, plein de députés. Tu as des Starter Packs journalistes, Starter Packs Twitch, avec plein de streamers et de streameuses, Starter Pack YouTube, Starter Pack, voilà. Donc tu vas de Starter Pack en Starter Pack et tu balances tes follows, tu follow un maximum de gens que tu as envie de suivre, hein, pas des gens que tu connais pas. Et comme ça, au bout de 30 minutes, t'es déjà pas mal en termes de nombre de follows. Ça existe sur X maintenant. Ah ouais? C'est bon, à ton avis, de segmenter les réseaux sociaux en fonction des affiliations politiques? Mais c'est pas moi qui en prends la décision, hein. Je suis pas responsable. Quand vous rentrez dans un bar et que vous vous installez dans un bar et que vous passez un bon moment, le bar est cool, ça se passe bien, vous appréciez votre moment. Puis il y a un nazi qui rentre dans le bar, puis il y a un deuxième nazi, puis un troisième, et puis en fait le bar se remplit de nazis. Et à la fin, vous êtes le seul à pas être nazi dans le bar. Et eh bien, vous savez quoi? Vous avez le droit de vous barrer. vous avez le droit de changer de bar. C'est pas grave, on vous en voudra pas. C'est voilà. Vous n'abandonnez personne, vous n'êtes responsable de rien, vous ne faites pas de la segmentation. Voilà. Si vous jugez que l'atmosphère devient irrespirable, cassez-vous. C'est OK. On dirait le début d'une mauvaise blague. La chute du mur. Si tout le monde est sur le même réseau, il n'y aura pas que des nazis dessus. Mais vas-y alors sur ce réseau de nazis. Si tu veux essayer d'inverser la vapeur et de dénazifier un réseau de nazis, vas-y. Moi, en ce qui me concerne, je suis déjà parti loin. Hein. Que faites-vous dans un bar plein de gens pas cool? Ton analogie du bar marche bien, elle marche aussi pour les partouzes. Oui, ça marche. Oui, mais j'ai préféré l'analogie du bar. Alors que dans les partouzes aussi, il y a une analogie. Enfin, ouais, non, nul. La chute est pas ouf. Non. Tu exagères complètement, je vois jamais de nazis sur mon fil X. Bah tant mieux pour toi. Ah non, mais attendez, si vous trouvez que l'air est encore respirable sur X, vous pouvez rester. Moi, je vous incite pas à quitter X. Hein. Je vous dis que moi, je l'ai fait. Oh, vous faites ce que vous voulez. Franchement, sentez-vous libre. Qu'est-ce qui fait qu'un réseau attire plus de nazis que d'autres? Le fait que le réseau soit possédé par un nazi, déjà, ça aide. Et le fait que le nazi en question ait décidé de supprimer toutes les formes de modération qui avaient pu exister par le passé à la faveur des nazis, qui du coup se sentent à l'aise sur ce réseau. Et plutôt que de se barrer du bar, on peut pas plutôt kick les gens pas cool. Ça, c'était l'ancien Twitter. Je suis d'accord avec toi, c'était l'ancien Twitter. Il y avait de la modération, comme on dit. Où les gens qui disaient des trucs de nazis, ils étaient bannis. Du coup, il n'y avait pas grand monde qui disait des trucs de nazis. Puis ça a changé. La liberté d'expression, c'est quand même important. Oui. T'as toujours pas compris le fait de partir. T'as toujours pas compris ce que je suis en train de dire. Vous êtes libre de rester sur Twitter si vous voulez. Vous n'êtes pas libre de me forcer à rester. Tu l'as saisi la nuance ou... Voilà. En fait, t'as le droit de partir. C'est pas grave, c'est OK. Tu n'empêches personne de s'exprimer. Même Trump a été banni de Twitter. Ouais, même Trump a été banni de Twitter à une époque, c'est vrai, t'as raison. C'est vrai qu'il a été banni de Twitter avant le rachat par Elon Musk. Il est débanné maintenant. Il est débanné, mais il a créé son contre-Twitter, Musk. Il a créé son réseau social qui s'appelle Trump, pardon, pas Musk. Trump, il a créé un réseau social qui s'appelle Truth Social, qui est une application similaire à Twitter, mais réservée à la mouvance MAGA. Voilà. Il n'y a que des gens qui parlent en anglais. Ce n'est pas du tout développé en France, hein, parce que voilà. Éric Ciotti va ouvrir le trou social français. On n'a pas encore ça en France, effectivement, un réseau social d'extrême droite. Bah, on a Twitter, tu me diras, ça suffit. Il y a déjà un groupe de médias avec Bolloré, il y a Twitter, il y a une maison d'édition avec Fayard. Enfin, je veux dire, ils ont déjà suffisamment. Il y a pas, disons qu'il n'y a pas de besoin. Il n'y a pas de besoin particulier. L'extrême droite a déjà largement de quoi faire en France. Et je sais pas, peut-être qu'un jour, ils créeront un truc différent. Je sais pas. Mesdames et messieurs, quelles sont les actualités qu'on a en ce début de semaine? On est lundi, on essaye de se remettre dans le bain de l'actualité. Demain, je ne ferai pas les questions au gouvernement puisque je serai à Toulon pour l'émission Backseat. Mercredi non plus, je ne ferai pas les questions au gouvernement parce que je serai de retour de Toulon et je serai dans le train à l'heure des QAG. Je ne réagirai pas. Non, je ferai pas la diffusion de la commission d'enquête avec Samuel Etienne. Je pourrai pas, je serai à Toulon. Il y a Internet dans le train avec Blue Sky, avec Starlink dans le TGV. C'est quand son audition? L'audition de Samuel, c'est demain mardi. D'ailleurs, faut que je lui envoie un message pour lui dire que je pourrais pas du coup diffuser. Mais non, je lui ai déjà dit la semaine dernière. Je lui ai déjà dit la semaine dernière. Non, il y a surtout une motion de censure qui a été déposée, dis donc. Il y a une motion de censure qui a été déposée par le Rassemblement national. Marine Le Pen a déposé une motion de censure pour critiquer le fait que le gouvernement fasse passer sa programmation pluriannuelle de l'énergie par décret au lieu d'une loi. Donc, la programmation pluriannuelle de l'énergie ne sera pas formellement débattue au Parlement. Même si des débats vont quand même être organisés, en tout cas, ne sera pas voté par le Parlement, ça passera par un décret. Et c'est le point sur lequel Marine Le Pen a décidé d'attaquer le gouvernement, raison pour laquelle il y aura bel et bien une motion de censure qui a été déposée ce matin et qui devrait donc être examinée jeudi, vendredi. Et je ne pourrais pas la streamer. Si c'est jeudi, je peux la streamer. Si c'est vendredi, je peux la streamer. LFI aussi? Ah, ça y est, LFI aussi? Ah merde, mais attendez, moi j'étais au courant que de celle du RN. Ah ouais, LFI aussi. Ouais, autant pour moi. Autant pour moi. LFI a déposé également une motion de censure. Sur le même sujet. D'accord, bon. Bah écoutez, de toute façon, bon. On a suivi ensemble sur cette chaîne les motions de censure qui ont été déposées sur le budget. On se souvient qu'elles n'ont pas été adoptées suite à l'abstention à la fois des Républicains et des Socialistes. Donc, il y a quand même très peu de choses que cette motion de censure-là soit adoptée également. Si on ne censure pas un budget, alors pourquoi censurer sur une programmation pluriannuelle de l'énergie, même si c'est un texte important? De toute façon, le PS ne va pas censurer, il va encore trahir. Quelle surprise, donc aucun suspense. Alors, une trahison, c'est par rapport à un engagement qu'on a pris. Il n'y a pas d'engagement dans le projet du Front Populaire, du nouveau Front Populaire, sur la programmation pluriannuelle de l'énergie. On ne peut pas parler de trahison. Trahison, c'est par rapport à un programme sur lequel on a été élu. Le PS fait ce qu'il veut. Bah oui, encore heureux. Encore heureux. Ils trahissent même la trahison. C'est ça. Vu toutes les horreurs qu'ils ont laissé passer, c'est quand même de la trahison. Si tu veux, si tu veux. En plus, t'as l'air d'y tenir, donc non, 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 t'as raison. Reste dessus. Alors, j'ai un article. Toum, toum, toum. Ça dégage. J'ai un article sur le remaniement qui a une implication sur les motions de censure de cette semaine, justement. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Voilà. Non, c'était pas cet article-là. Attendez. C'était celui-là. Pardon, excusez le streamer, il est fatigué. Alors, il est urgent d'attendre. Il est urgent d'attendre. Gouvernement, le remaniement repoussé au milieu de la semaine prochaine. C'est un article qui est sorti la semaine dernière, il y a 2 jours. Donc, il y aura peut-être un remaniement au milieu de cette semaine. Sébastien Lecornu souhaite attendre l'issue d'une possible motion de censure du Rassemblement national. Rachida Dati, Amélie de Montchalin et Charlotte Parmentier-Lecocq sortiraient de l'équipe gouvernementale. Ça, c'est pour les sortantes. Mais alors, qui sont les entrants? Question. Sébastien Lecornu avait fixé ce dimanche comme date limite. Mais le remaniement gouvernemental ne devrait pas avoir lieu avant le milieu de la semaine prochaine, au plus tôt, ont fait savoir ce samedi 21 février des sources concordantes au sein de l'exécutif, confirmant des informations du Parisien qui évoque mercredi au plus tôt. Je suppose que le gouvernement attend également le retour de Jean Mascier en stream avant de faire le remaniement. Ça me paraît effectivement un élément d'agenda important à prendre en compte. Le Premier ministre Sébastien Lecornu attend de savoir quand sera discutée l'éventuelle motion de censure du Rassemblement national et par respect pour le Parlement, on ne va pas modifier le gouvernement avant, a expliqué son entourage. Ça peut se justifier. Ça peut se justifier. Cette motion, que le RN espérait initialement transpartisane, portait sur la feuille de route énergétique du pays, récemment fixée par décret, alors que le parti d'extrême droite réclamait une loi. Dénonçant un passage en force, le RN pourrait donc déposer son texte lundi, selon une source au sein de l'exécutif, entraînant un examen dans l'hémicycle mercredi au plus tôt. Je vous rappelle que l'article que nous sommes en train de lire a été publié samedi dernier. Et depuis ce matin, nous savons que la France Insoumise et le Rassemblement National ont chacun de leur côté déposé une motion de censure qui sera examinée, on ne sait pas encore quand, probablement mercredi ou jeudi. Bien que la motion ait peu de probabilité d'être votée, comme l'a très bien expliqué le streamer Jean Mascier, cela repousserait de facto le remaniement auquel le Premier ministre entendait initialement procéder avant le début de la période de réserve des élections municipales ce dimanche. Ah oui, on rentre, ça y est, en période de réserve là? On est le 23 février, ouais, bah oui. J'en étais où? Ouais. Trois ministres au moins sont sur le départ. Celle de la culture, Rachida Dati, candidate à la mairie de Paris. Ça, on le sait. Celle du budget, Amélie de Montchalin, nommée à la Cour des comptes, ça, on le sait aussi. Et celle chargée de l'autonomie et des personnes handicapées, Charlotte Parmentier-Lecocq, qui souhaite retrouver son siège de députée. Donc, elle, c'est une ministre qui a annoncé sa volonté de quitter le gouvernement pour redevenir simple députée. Pourquoi ils en déposent une chacun, ils ne peuvent pas y en faire une commune? LFI et le RN sont pas trop du genre à travailler ensemble, si tu vois ce que je veux dire. Il n'y a pas de transpartisanisme entre ces deux groupes de députés. Bien au contraire. sur les dépôts, que ce soit des propositions de loi, des amendements et des votes sur les motions. Alors des votes sur les motions, si, parce que le RN vote les motions de censure déposées par LFI, mais LFI ne vote pas les motions de censure déposées par le RN. Pourquoi ? Parce que LFI est un groupe de gauche et que le Rassemblement National est un groupe d'extrême droite. Ce sont des opposants politiques. Ce sont des gens qui ne s'apprécient pas politiquement. Ce sont des gens qui se combattent politiquement. Voilà. Et si les idées convergent ? Alors, au risque de péter un mythe, les idées ne convergent pas. La France Insoumise et le Rassemblement National n'ont pas d'idées convergentes. Ils ont des projets politiques, des projets de société radicalement opposés. LFI, c'est à gauche ? Oui, la France Insoumise est un groupe de députés ainsi qu'un parti politique classé à la gauche du paysage politique français. J'en étais où ? La prise de fonction d'Amélie de Montchalin dès ce lundi rue de Montpensier, c'est la Cour des comptes, obligera d'ailleurs l'exécutif à la dénommer officiellement dimanche, a expliqué l'entourage de Sébastien Lecornu. Pour la remplacer, l'actuel ministre délégué à la fonction publique David Amiel, macroniste pur jus, tient la corde, selon plusieurs sources gouvernementales. Reste à savoir si celui-ci sera promu dès dimanche ou si le ministre de l'économie Roland Lescure assurera quelques jours d'intérim, comme le suggère une source au sein de l'exécutif. On a appris hier dimanche qu'il y avait bel et bien David Amiel qui avait remplacé Amélie de Montchalin. Disons qu'il y a une petite avance sur le remaniement. Ça n'a pas été récemment requalifié par le ministère de l'Intérieur. Mais t'es pas fonctionnaire du ministère de l'Intérieur, toi. Donc en quoi ça te concerne ? Dati fait de la résistance. Même si l'entourage du Premier ministre assure que le cas Dati n'a rien à voir avec les nominations... Plusieurs sources, à l'image de ce proche du président, soulignent que la ministre de la Culture ne serait guère pressée de quitter son poste. Elle s'accroche comme une bernique. Elle fait du lobbying pour rester le plus longtemps possible. Le Parisien suggère qu'elle espérerait pouvoir participer à la nomination d'un nouveau patron du Louvre, mercredi en Conseil des ministres, voire qu'elle souhaiterait conserver son Marocain dans l'hypothèse d'une défaite au municipal à Paris. Rachida Dati qui essaye de se sécuriser un petit parachute au cas où ça se passe pas très bien les élections municipales à Paris. L'intéressée s'est contentée de promettre mercredi dernier qu'elle quitterait le gouvernement avant les élections. Il reste 3 semaines, on sait pas encore, mais voilà. Dont le premier tour est le 15 mars, rappelant qu'Édouard Philippe était en son temps resté à Matignon en menant de front sa campagne municipale au Havre en 2020. Elle a raison, Rachida Dati a raison, de rappeler qu'à l'époque, ça ne choquait personne qu'Édouard Philippe reste candidat à la municipale du Havre tout en étant Premier ministre. Pour la remplacer, Catherine Péjard, ancienne présidente du château de Versailles, ex-conseillère culture de Nicolas Sarkozy et actuellement conseillère d'Emmanuel Macron, tient la corde. Voilà pour ce petit article sur le remaniement qui devrait intervenir cette semaine après le rejet des 2 motions de censure qui ont été déposées ce matin. Pas beaucoup de suspense, d'une part, et d'autre part... ce ne sera pas un remaniement radical. Hein. Disons qu'il y a plusieurs types de remaniements. Tu as le remaniement, je rappelle pour ceux qui ne savent pas, que c'est un changement dans l'équipe gouvernementale, changement de ministre. Il y a des remaniements qui sont des remaniements très politiques. Ça veut dire que le gouvernement acte un changement, une évolution dans son cap politique, dans son rythme de travail, dans sa feuille de route, etc. Et donc on change des ministres pour symboliser aussi ce changement de cap de l'action du gouvernement. Et puis il y a des remaniements qu'on appelle des remaniements tactiques ou techniques plutôt, qui sont des remaniements qui changent pas grand chose au cap du gouvernement. C'est typiquement le cas cette semaine où on va avoir quelques changements de siège pour des raisons techniques, parce que des ministres ont voulu partir, parce que des ministres ont été nommés ailleurs ou parce que des ministres se sont lancés dans des campagnes électorales. Voilà. Donc, remaniement technique, rien de spectaculaire, rien de très important. Voilà. Tranquille. De toutes les façons, non mais si on prend un petit peu de distance politique, de toutes les façons, ce gouvernement, j'espère que c'est clair dans la tête de tout le monde, ce gouvernement n'est pas un gouvernement de réforme. C'est pas un gouvernement d'action politique radicale. Je dis pas qu'il y a pas des textes de loi intéressants qui vont arriver dans les mois qui viennent, mais c'est fini l'époque des changements de politique pour la raison pure et simple que nous n'avons pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale. Nous n'avons même pas de majorité relative de projet. Il n'y a pas de majorité de projet dans cette élection, dans cette assemblée. Donc en fait, le gouvernement ne peut pas faire grand-chose. Il peut légiférer sur le côté, sur des trucs un peu consensuels, mais on n'est pas dans un gouvernement qui change le pays, quoi. Pour le dire autrement, on est en fin de quinquennat. On est déjà en fin de quinquennat. On est en fin de quinquennat depuis 2024. Depuis que les Français ont décidé d'élire une assemblée divisée. Il n'y a pas que Dati qui se présente tout en étant ministre, c'est pas le cas de Lecornu et de Darmanin aussi. Si, mais eux, ils n'ont pas annoncé leur départ du gouvernement. Ils n'ont pas annoncé qu'ils quitteraient le gouvernement pour se consacrer à plein temps à leur campagne municipale. Ce qui est le cas de Rachida Dati. Les Français ont fait gagner le NFP, on s'en souvient. Il paraît. J'ai lu ça sur Internet. Si l'Assemblée était autant divisée en 2027, il faudrait que les députés apprennent à bosser ensemble. Je ne sais pas si c'est une question d'apprentissage, parce que si tu as des lignes politiques radicalement différentes, confère ce qu'on disait tout à l'heure sur la France Insoumise et le RN. Le gouvernement ne peut plus rien faire hors 49.3, mais tout par 49.3. Non. Non, je vous rappelle qu'en dehors des textes budgétaires, le gouvernement est limité à un seul 49.3 par an. Tu ne peux pas changer le pays avec ça. Tu peux faire passer une loi par an. T'as un joker. Si t'as pas de majorité absolue, t'as pas de majorité absolue. Hein. C'est très très compliqué de faire changer les choses, de mener des réformes ambitieuses, d'appliquer une politique. Même la politique de l'offre, elle a pris un coup dans la gueule avec le budget cette année. Regardez comment les macronistes ont rongé leurs freins sur le budget jugé trop à gauche. Par beaucoup de responsables du centre et de la droite. Merci, Alexis. Merci. Avec un 49.3 par an, sauf sur des questions budgétaires, tu peux pas magouiller en faisant passer plusieurs lois dans les budgets. Non. Non, ça s'appelle des cavaliers budgétaires et c'est interdit par le Conseil constitutionnel, donc non. Non, mais cherchez pas, hein. Il n'y a pas de technique magique qui permet de gouverner le pays et de mener une politique publique ambitieuse contre le Parlement. Tu peux au mieux faire passer des budgets, et encore, vous avez vu le calvaire que ça a été de faire adopter un budget. 4 mois de négociation, 1,49,3 et tout le monde qui avale des couleuvres. C'est pas gratos politiquement. Sinon, vous doutez bien que Macron n'aurait pas hésité à le faire. Bah, Macron ou un autre, hein, d'ailleurs. C'est pas spécifique à Macron. Et encore le 49.3, je vous rappelle que le 49.3 n'est pas une baguette magique. 49.3, c'est pas un truc gratuit, c'est pas une carte comme ça que vous déclenchez et qui vous permet de faire passer une loi ou un budget. Il faut esquiver des motions de censure, et pour ça, il faut négocier. Il faut réussir à obtenir l'abstention de censure de certains groupes. Et les groupes le font payer cher, ça. En Allemagne, ils font comment? Ils négocient, ils font des coalitions gouvernementales. Ils font des compromis. Cette brutalité parlementaire est quand même assez caractéristique de ce second quinquennat. Maintenant, c'est tout l'inverse. Ce second quinquennat est le plus parlementaire des deux. Merci, Canicine. Le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, je vous rappelle qu'il avait une majorité absolue de députés. Emmanuel Macron faisait passer toutes les lois qu'il voulait. Et il l'a fait, d'ailleurs, il a fait passer des réformes très importantes. Il a même fait des ordonnances sur le Code du travail. Dès 2017, rappelez-vous, il a été très très peu empêché. Alors, il a été empêché sur la réforme de la Constitution, parce que justement, il devait quand même se mettre d'accord, notamment avec les Républicains, et c'est pas passé à l'époque. Mais pour autant, il faisait ce qu'il voulait. À partir de 2022 et la majorité relative, merci Ferry. À partir de la majorité relative, c'est devenu extrêmement compliqué. C'est devenu extrêmement compliqué pour Emmanuel Macron de faire ce qu'il voulait. Il a dû trouver un premier deal avec les Républicains qui a tenu 2 ans, 1 an et demi. Puis il a dissous, et là il s'est retrouvé dans une situation qu'on connaît aujourd'hui, dans laquelle il a une vague majorité relative avec le socle commun, mais le socle commun, il n'a plus grand-chose de commun depuis que Bruno Retailleau a quitté le gouvernement. Et pour faire adopter un budget, il est obligé de, maintenant de négocier avec le Parti Socialiste et de céder au Parti Socialiste beaucoup de choses. Donc c'est beaucoup plus parlementaire. C'est beaucoup plus parlementaire ce deuxième quinquennat que le premier. Macron a une majorité de non-censure et l'Assemblée nationale n'a pas de majorité. J'appelle pas ça du parlementarisme efficace, une situation de statu quo bloqué sans solution réelle. J'ai jamais dit que c'était efficace, mais je suis d'accord avec toi. Vous me demandez si c'est parlementaire. Je vous réponds oui, c'est parlementaire. Nous sommes en train de vivre une séquence très parlementaire. La preuve, il se passe pas grand-chose. Ben oui, c'est bloqué, il y a un statu quo. Il y a vaguement une majorité d'abstention de censure sur un budget. Est-ce que c'est suffisant pour faire adopter des lois? Non. Est-ce que les lois ont des chances d'être adoptées? Non. Est-ce qu'il faut négocier? Oui, c'est compliqué, ça prend du temps. Merci Fimat. Des bisous Fimat. C'est surtout illégitime. C'est le vote des Français. Est-ce que tu penses que la proportionnelle sera votée dans les prochains mois? C'est possible. C'est possible que avant la présidentielle 2027, il y ait un vote à l'Assemblée nationale pour instaurer la proportionnelle pour les élections législatives. Parce que, enfin, c'est un peu compliqué. Si on regarde les camps politiques, on peut dire qu'il y a... justement, c'est la gauche qui a gagné et c'est la droite qui gouverne. T'es encore là-dessus? Mais vous y croyez encore à cette légende, vous? que la gauche a gagné les élections législatives de juin 2024. Faut un peu passer à autre chose, hein. Je suis désolé, mais quand t'as 180 députés, t'as pas gagné les élections, hein. Je sais qu'il y a des gens qui racontent cette histoire, qui tombent dans l'oreille de gens qui ont envie d'entendre ça, mais c'est juste pas vrai, en fait. C'est voilà. c'est juste pas vrai. T'as pas les moyens de politique de gouverner, ou alors il faut faire des compromis. Ou alors il faut trouver une coalition gouvernementale, et il y en a quand même beaucoup qui sont pas chauds pour négocier avec les macronistes, pour faire une coalition avec eux. Je reviens sur la proportionnelle. La proportionnelle, le NFP est pour. Le MoDem est pour. Le RN est pour. Et ensuite, du côté de gens, de ceux qui sont contre radicalement, il y a les Républicains, Horizon et Renaissance, c'est compliqué. Renaissance, une fois ils sont pour, une fois ils sont contre, ça dépend, etc. Mais une fois que j'ai dit ça, en fait, faut rentrer dans le détail. Une fois que j'ai dit ça, faut rentrer dans le détail de quel type de proportionnel on suggère, qu'est-ce qu'on imagine comme modalité de proportionnel. Je crois de mémoire que le Rassemblement national est favorable à une proportionnelle nationale intégrale avec prime majoritaire, et que à gauche, on est plutôt pour une proportionnelle par région ou par département sans prime majoritaire, à un ou deux tours. Une proportionnelle avec prime majoritaire, ce n'est pas une proportionnelle. Si, c'est une proportionnelle avec prime majoritaire. Donc, d'un point de vue de tactique politique et d'agenda, le gouvernement est susceptible de proposer effectivement un projet de loi, ou alors ça portera par une proposition de loi transpartisane, y compris de certains groupes du Sénat, surtout de la gauche du Sénat, qui sont favorables à la proportionnelle. Je ne sais pas où ça en est, le projet d'aboutir à une proportionnelle, bientôt. Honnêtement, je ne sais pas. Arriver en premier aux élections, c'est gagner les élections. Si tu veux. Avec une élection proportionnelle, ça risque pas d'avoir que des élus qui sont sur des grandes villes. Ça dépend de comment tu constitues les listes et ça dépend de quelle zone géographique tu détermines pour la constitution des listes. Si tu fais des listes départementales, des listes régionales, ça dépend de quelle modalité aussi tu rajoutes dans la loi pour forcer les partis à avoir une représentativité territoriale. Ça dépend un peu de tout ça en même temps, quoi. Pourquoi est-ce que tout le monde est à ce point divisé sur qui a gagné ou non les législatives de 2024 ? Désolé si la question est idiote, mais des choses m'échappent encore. Non, je vais t'expliquer. En fait, la victoire à une élection, gagner une élection, c'est quelque chose d'arithmétique, c'est quelque chose de mathématique dans l'écrasante majorité des cas. C'est celui qui a le plus de bulletins de vote dans les urnes au second tour qui remporte l'élection, point barre. Pour la présidentielle, pour les législatives, pour les municipales au second tour, pour les européennes, etc. En fait, le soir à 20h, quand vous allumez votre télévision, vous avez le résultat avec une victoire nette qui est le fruit d'un comptage mathématique. Ça, c'est pour la plupart des scrutins, et notamment les scrutins uninominaux. En revanche, dès lors que vous faites une élection d'une chambre, d'une assemblée, vous pouvez vous retrouver dans une situation dans laquelle il n'y a pas de vainqueur clair au soir des élections. Et c'est exactement ce qui s'est passé en 2024. Il faut bien comprendre un truc, c'est que de toute l'histoire de la Ve République, il n'y a que l'élection de 2024 qui nous a placés face à cette situation inédite. Ça fait 80 ans qu'on a un vainqueur le soir des élections législatives. Et là, pour la première fois, on n'avait pas de vainqueur. On avait une assemblée qui était tripartitionnée entre trois blocs, le NFP, le socle commun et l'extrême droite, et aucun ne pouvait à lui seul revendiquer la victoire. La majorité relative, c'est le socle commun. Mais le socle commun n'était pas fondé à 20h le soir du second tour des élections législatives. Le socle commun, il s'est fondé le lendemain et le surlendemain par un accord d'appareil qui a été fait entre la coalition Ensemble et les Républicains. Et c'est cette coalition d'après-élection qui avait une majorité relative. Mais ce n'est pas pour autant un vainqueur. C'est pour ça qu'il faut sortir de cette arithmétique victoire-défaite, parce que ça, c'est une vision en noir et blanc, en tout ou rien, d'une situation qui est beaucoup plus subtile. On parle d'une assemblée, on parle de l'Assemblée nationale, dans laquelle se retrouvent des rapports de force. Et il y a des rapports de force qui sont plus puissants que d'autres, dans certaines configurations, mais pas dans toutes. C'est pour ça que je dis que le gouvernement de Sébastien Lecornu a une majorité d'abstention de censure. C'est pas une majorité politique. Il n'existe pas de majorité absolue de députés qui soutiennent Sébastien Lecornu. Mais, dès lors que la censure est proposée, il se trouve une majorité de députés pour ne pas voter la censure. Donc, c'est un peu le chat de Schrödinger. Il n'a pas assez de force politique pour gouverner pleinement le pays, mais il a suffisamment de stabilité pour ne pas être renversé. Est-ce que c'est satisfaisant ? Non. Est-ce que c'est la situation rêvée pour lui ? Non. Mais c'est tout ce qu'il a. Et il n'aura rien de mieux. Est-ce que le NFP a complètement disparu de l'équation ? Non. Le NFP aurait pu se retrouver en situation de gouverner. Merci Zazak. Mais il aurait fallu pour ça que le NFP trouve une majorité de projets, de négociations, de discussions avec les macronistes. À minima, il aurait fallu que le NFP obtienne des macronistes l'engagement de ne pas les censurer. Je vous laisse imaginer la quantité de concessions qu'aurait dû faire le NFP pour ne pas être renversé par les macronistes à la première occasion. J'espère que vous avez aimé les négociations entre le PS et le gouvernement, parce que ça aurait été ça tous les jours. Mélenchon aurait dû garder le silence plus de 5 minutes après le 20h. Oui, bah c'est oui. C'est la fameuse citation de Jean-Luc Mélenchon qui, le soir à 20h05, juste après l'annonce des résultats, dit « Nous gouvernerons et nous appliquerons notre programme, rien que notre programme, tout notre programme. » Ce qui est particulièrement gonflé quand on n'a que 180 députés. Le PS est catastrophique, mais ça fait 50 ans que ça dure. T'es méchant avec Jean-Luc. Franchement, t'es méchant avec Jean-Luc. Si les socialistes avaient continué à suivre le NFP, ils auraient été sûrement obligés de nommer la gauche ou même de refaire des élections. Ça aurait peut-être été ingouvernable, on n'en sait rien. Mais en fait, les négociations n'ont même pas eu lieu. Dans les élections de 2022, il n'y avait pas de vainqueur. Dans les élections de 2022, il y avait quand même une majorité relative. Il y avait quand même une majorité relative des macronistes, qui avaient en plus les républicains qui ont annoncé qu'ils ne censureraient pas les macronistes. Donc, ils n'avaient pas de majorité absolue suffisante pour gouverner, mais ils avaient quand même une garantie de pouvoir continuer à fonctionner grâce aux Républicains, qui en plus étaient de nature à voter les textes budgétaires. C'est-à-dire qu'en fait, il faut bien comprendre que en 2017, Emmanuel Macron, il avait une situation idéale, mais idéale. Il avait l'Élysée et il avait l'Assemblée nationale, donc il avait Matignon. Tout se passait bien, tranquille. Et il a gouverné pendant 5 ans comme ça. Puis, en 2022, Emmanuel Macron, il est réélu président et il se retrouve avec une situation moins confortable. Parce qu'il n'a pas de majorité absolue de députés. Mais bon, en négociant un peu avec les Républicains, ça peut à peu près le faire. Et c'était pas ouf. Et donc c'est comme ça qu'il a fonctionné avec Elisabeth Borne, puis avec Gabriel Attal. Et en 2024, sur sa propre décision, Emmanuel Macron s'est retrouvé dans la pire des situations. Non, c'est pas la pire, vous avez raison. Non, attendez, j'y reviens. Il se retrouve dans une situation encore moins confortable. Où là, non seulement il n'a pas de majorité absolue, mais il a une majorité relative, mais mi-rikiki. On parle de 220 députés, en comptant les députés LR. C'est vraiment pas satisfaisant. Et c'est la situation dans laquelle on est depuis 2024. Il peut encore y avoir une situation encore pire pour Emmanuel Macron, qui est possible, qui s'appelle la cohabitation. La cohabitation, c'est quand le président de la République est mis en minorité à l'Assemblée nationale, en minorité absolue. Ça veut dire qu'il existe une majorité absolue alternative qui a donc Matignon, que ce soit le RN ou le NFP. Et alors là, pour le coup, le président de la République, quand il est dans cette situation-là, il ne peut plus rien faire, terminer, ciao, bye bye, tu vas inaugurer les chrysanthèmes, c'est tout ce qui te reste, mon grand. Voilà. Dans la pratique du régime, la cohabitation, c'est pas plus souhaitable que la situation actuelle. Ça dépend. Laquelle de cohabitation ? Avec qui au gouvernement ? Parce que moi, je te jure que Jordan Bardella, Premier ministre, ça me fait pas rêver. Hein. Je préfère encore 1000 fois la situation dans laquelle on est actuellement, où il faut négocier pendant des mois pour faire passer un budget et tout. Ça me va. À choisir, je préfère. Hein. Si c'est ça le choix, je préfère. Mais c'est intéressant que... Attends, je vais faire un sondage dans le chat. Hop. Voilà. Je vous mets un sondage dans le chat et vous me dites ce que vous pensez de la cohabitation dans l'absolu. Ok, tout le monde vote pour Obi-Wan. J'aurais pas dû mettre Obi-Wan. Ah ouais, vous êtes plus divisé que ce que je pensais. Parce qu'il faut bien se rendre compte d'un truc, c'est que la cohabitation, c'est une situation politique qui a été découverte en 1986 pour la première fois. On a dû inventer un régime politique un peu nouveau dans le cadre de la 5e, où le président de la République et le Premier ministre se détestent. Quand bien même c'est le président de la République qui nomme le Premier ministre en respectant les équilibres politiques de l'Assemblée nationale, justement. La cohabitation, on s'est retrouvé dans une situation où l'Élysée est à gauche, Matignon est à droite, Puis, on a réeu la cohabitation en 1993, avec à nouveau l'Élysée à gauche et Matignon à droite. Puis, en 1997, on a eu l'Élysée à droite et Matignon à gauche. Donc, les deux camps politiques, droite et gauche, ont tous les deux expérimenté la cohabitation dans un sens comme dans l'autre. Depuis Matignon et depuis l'Élysée. Bon. Le consensus politique à l'époque, après tout ça, après cette expérience-là, c'était que c'était de la merde. La cohabitation, non merci. On n'en veut plus. C'est à chier. Ça n'a aucun sens. Ça marche pas du tout dans la bonne direction. Ça n'a aucun intérêt d'avoir un président de la République qui déteste le Premier ministre et qui fait des fuites dans la presse pour niquer le gouvernement. Ça ne sert à rien d'avoir un gouvernement qui challenge en permanence le président de la République sur ses prérogatives. On l'a vécu dans un sens comme dans l'autre. On est tous les deux... Et à l'époque, il y a eu un espèce de gentleman's agreement entre la gauche et la droite qui se sont serré la main en disant « Venez, on arrête. Venez, on arrête. » Voilà. Donc, on a fait une réforme. On a réformé la Constitution pour raccourcir le mandat du président de la République et inverser le calendrier législatif, ce qui s'est appelé la réforme du quinquennat. Et en l'an 2000, les Français ont voté oui au référendum en disant « Ok, c'est bon, ciao, merci. Plus de cohabitation. Maintenant, ce que veulent les Français, c'est un cap clair. » Voilà, on va le dire comme ça. C'est-à-dire, quand le pays est à droite, il est à droite. Quand le pays est à gauche, il est à gauche. Il n'y a pas d'un peu les deux, t'as vu, t'inquiète, on se met d'accord, machin, c'est chelou, tout ça. On ne veut pas que le président de la République soit le premier opposant du pays, dans un sens comme dans l'autre. Et c'est comme ça qu'on a mis en œuvre la réforme du quinquennat. Et la réforme du quinquennat s'est mise en œuvre, et elle a très bien fonctionné. On a eu ce qu'on voulait. Nous, les Français, on a eu ce qu'on voulait. On a eu un fonctionnement de la Constitution dans lequel les choses sont claires. On élit un président, on élit des députés qui soutiennent le président, et pendant 5 ans, le mec, il est au pouvoir. Et il fait ce qu'il veut, il a une majorité, machin et tout. Par contre, quand on décide de changer, nous, les Français, eh ben on change vraiment. On change le président et on change le Parlement en même temps. Allez, hop. Et donc, on a une alternance droite-gauche qui est possible, qui est rendue possible par les élections, évidemment, machin. Et donc, tout ça a bien fonctionné jusqu'en 2022, avec ce que je vous ai raconté tout à l'heure, où là, pour la première fois, on se retrouve avec un président... Un président qui se retrouve avec un Premier ministre qui a moins de légitimité parlementaire qu'avant. Plus de majorité absolue à l'Assemblée. Et 2024, je vous en parle même pas. D'où ma question, mesdames et messieurs, est-ce que 2027 sera l'année d'un retour à la normale, disons ? Est-ce que 2027, les choses vont rentrer dans l'ordre ? Est-ce que Jean-Luc Mélenchon va être élu président de la République avec une majorité absolue ? Et j'ai pris l'exemple de Jean-Luc Mélenchon comme j'aurais pu prendre celui de n'importe qui, de Jordan Bardella, d'Edouard Philippe, etc. Machin, je m'en fous. La réflexion est la même. Donc, quelle que soit la situation dans laquelle on se retrouve, c'est intéressant de penser le mode de fonctionnement de nos institutions pour correspondre à ce que l'on souhaite dans l'absolu. Est-ce qu'on veut dans l'absolu une politique efficace avec un Parlement qui est un peu une chambre d'enregistrement des décisions du président de la République ? Et encore une fois, quand je vous dis ça, ne pensez pas Macron. Pensez une situation dans laquelle vous êtes au pouvoir et pensez la même situation dans laquelle vous êtes dans l'opposition. C'est les deux qu'il faut avoir en tête, parce que c'est ça, écrire une constitution. Merci Hugo pour ton raid. Merci Hugo. Salut les viewers d'Hugo. On est en train de parler de la proportionnelle et de l'organisation des institutions dans un cadre d'instabilité parlementaire. Écris-moi la constitution de mon cœur. T'es con. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on veut comme mode de fonctionnement de nos institutions qui s'applique de la même manière dans tous les cas de figure, qu'on soit dans l'opposition ou dans la majorité. J'avoue que des mi-termes, c'est un bon contre-pouvoir. Donc des mi-termes, donc les mi-termes, c'est le système à l'américaine où en cours du quartennat du chef de l'État, du président américain, il y a des élections. Et on renouvelle la Chambre des représentants et le Sénat aussi, je crois. Ok, ça s'appelle la cohabitation. En France, ça s'appelle la cohabitation. Ça veut dire le retour de la cohabitation. Ça veut dire, pourquoi pas, hein, on fait des mi-termes tous les 2 ans et demi. On change l'Assemblée nationale tous les 2 ans et demi. Enfin non, on change tous les 5 ans, mais avec un décalage par rapport à l'Assemblée, au président de la République. Ça veut dire que Jean-Luc Mélenchon est élu en 2027, qu'il applique l'avenir en commun jusqu'en 2029, et que là, c'est Jordan Bardella qui se retrouve à Matignon, en cohabitation avec Jean-Luc Mélenchon pour 2 ans et demi, et qui applique le programme du RN. Et c'est valable dans l'autre sens. Ce que je viens de dire est valable dans l'autre sens. Jordan Bardella est élu président en 2027. Clémence Guettet se retrouve Premier ministre 2 ans et demi plus tard. Pourquoi pas, hein ? Est-ce que les mi-termes découlent obligatoirement sur la victoire d'une opposition ? Non, pas nécessairement. Il y a des présidents qui ont réussi, notamment aux États-Unis. Il y a des présidents qui ont réussi à remporter les mi-termes. En France, les élections intermédiaires, ce qu'on appelle les élections intermédiaires en France, ce sont les élections qui se déroulent dans l'intervalle entre 2 séquences électorales nationales. La séquence électorale étant présidentielle, législative, liées l'une à l'autre à 1 mois d'intervalle. Donc les élections intermédiaires, c'est les municipales, les régionales, les départementales, les élections européennes. Grosso merdo, c'est ça, les élections intermédiaires en France. Statistiquement, on constate, historiquement, que le pouvoir en place est souvent en posture difficile pour les élections intermédiaires. Les Français ont tendance à choisir le bulletin de vote qui leur permet de dire leur mécontentement au gouvernement et au président de la République. C'est pas toujours vrai, il y a des questions d'intensité, ça dépend des élections, il y a des moments où ça peut être surprenant, mais grosso merdo, quand vous êtes président de la République et que vous avez un gouvernement de la même couleur que vous, vous allez vous prendre une tôle au municipal. Ouais. Partez un peu du principe que ça va pas très très bien se passer. C'est comme ça. Voilà. Il y a eu des contre-exemples pour les élections européennes en 2019, par exemple. Renaissance, enfin En Marche à l'époque, a fait un assez bon score. Emmanuel Macron a fait un bon score. Lié au fait qu'il était lui-même très européen, très européiste, que c'était des élections européennes, donc les Français ont aussi envoyé un signal plutôt favorable à une vision de l'Europe très unie, très avant-gardiste, etc. Donc, bon, c'est un peu particulier. On a aussi vu les socialistes s'en sortir pas trop mal aux élections municipales. Je pense notamment à 2014, mais j'ai un doute. Je sais pas. Mais 2001, par exemple, les élections municipales, ça a été la Bérézina pour la gauche. Comment on faisait à l'époque ? Comment ils faisaient les gens, les Français, en 2001, pour dire tout le mal qu'ils pensaient du gouvernement de gauche pluriel, du ministre Jean-Luc Mélenchon, par exemple ? Ils étaient insatisfaits. Comment ils faisaient ? Ils votaient à droite. Ils votaient pour le RPR. Et le RPR a très très bien réussi ses élections municipales en 2001 grâce à ça. En 2014, c'était pas ouf. Hollande avait fait une allocution le soir du second tour, et surtout avec l'enchaînement avec les européennes 2014. Ouais. Ouais, le PS avait pas si bien résisté que ça aux élections municipales en 2014. En même temps, il y avait eu le mariage pour tous entre-temps. La droite s'était requinquée dans la rue avec la manif pour tous. Ne pas citer Mélenchon pour le dénigrer pendant 10 minutes, ça doit être difficile. Oh, oh non, je suis désolé, Bichon. Je voulais pas te faire mal. Donc ouais, non, 2014, moi j'en ai pas beaucoup de souvenirs de 2014, que je sais que la gauche a gardé Paris et Lyon, mais je me souviens pas. Je me souviens pas dans les autres villes. C'est vrai que j'ai pas trop trop la mémoire. Le problème avec toute réforme du système électoral, c'est que tu as toujours l'argument de l'arrivée au pouvoir du RN pour s'y opposer. À partir de là, on ne peut pas avancer, c'est triste. Mais si, on peut avancer. On peut avancer. Moi, je n'utilise pas l'argument de l'arrivée au pouvoir du RN. Je vous dis juste que quand vous pensez aux institutions, ne faites pas l'erreur de ne vous placer que dans la position du vainqueur. C'est trop facile. C'est trop facile de jouer au jeu en mode facile. Il faut jouer au jeu en mode hard. Il faut imaginer la situation dans laquelle on est dans l'autre sens, on est dans l'opposition. Quels sont les contre-pouvoirs qu'on a? Quelles sont les possibilités qui s'offrent à nous? Quelle marge de manœuvre est-ce qu'on donne à l'opposition? Ça, c'est une question centrale quand on écrit une constitution. Qu'est-ce que les opposants ont le droit de faire? Est-ce qu'ils ont le droit de censurer le gouvernement? Est-ce qu'ils ont le droit de déclencher des référendums? Merci Mitoufle. Est-ce qu'ils ont le droit... J'en sais rien, moi. Est-ce qu'ils ont le droit de déclencher, ouais, des dissolutions? Est-ce qu'ils ont le droit de faire des commissions d'enquête parlementaire? Est-ce qu'ils ont le droit de faire des propositions de loi, des amendements? Est-ce qu'ils peuvent s'opposer? Comment? Par quels moyens? Par quel mécanisme? Et ça, il faut pas l'imaginer en se disant, je donne, parce que je suis gentil, je donne à mon opposition des moyens de s'opposer à moi. Non. Il faut se dire, je me donne à moi les moyens de m'opposer le jour où je serai dans l'opposition. Le jour où ce sera mon tour. Sauf si tu bloques le changement de tour. Eh ben non, ça marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Sachant que la définition de pouvoir et d'opposition, c'est variable suivant le système. Dans un système parlementaire qui privilégie les coalitions, c'est moins évident. Alors, c'est intéressant ce que tu dis, effectivement, t'as raison. Parce que en vous disant ça, merci Mitouf. Putain, 10 subs offerts! Waouh! Merci Mitouf pour ce très généreux cadeau à la communauté. C'est très sympa. Non, j'étais en train de vous dire que en vous disant, voilà, opposition, majorité, je joue moi-même le jeu de la Ve République, puisque je vous place tous dans une logique d'opposition en miroir, entre un bloc contre un autre, dans une version très noir et blanc. Un système parlementaire peut avoir des logiques un petit peu différentes. Par exemple, vous voyez tout ce que c'est qu'une motion de censure. Vous voyez tout ce que c'est qu'une motion de censure. Et si je vous disais que dans d'autres pays, je crois que c'est le cas notamment en Allemagne, il existe des motions de censure dites constructives. Alors c'est pas vraiment le bon mot, mais peu importe, c'est le meilleur qu'on a trouvé, donc on va l'utiliser, puis en plus il s'est un peu imposé, mais les motions de censure constructives, c'est un mécanisme par lequel des députés proposent de virer le gouvernement, mais ils proposent en même temps la nomination d'un nouveau gouvernement. Limite avec la liste des ministres. Avec la liste des ministres. Et il propose au vote l'ensemble du texte en disant aux députés, mes chers collègues, nous, les députés de tel camp, vous proposons non pas de renvoyer le gouvernement, mais de changer de gouvernement et de choisir notre gouvernement, celui que nous vous proposons. Qui vote pour, qui vote contre ? Et là, vous comprenez bien que le vote est un vote très important. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de voter pour dire « j'aime pas le gouvernement actuel ». Non, 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 non. Il s'agit de voter pour faire partie ou non de la nouvelle majorité. Dès lors, on a en même temps un vote de censure et un vote de confiance sur la même page. On a les deux. Nous censurons le gouvernement actuel et nous votons pour le gouvernement alternatif, qui peut être par exemple un gouvernement de coalition. Du coup, le fait pour le RN de voter les motions de censure de la France insoumise perdrait complètement de leur intérêt. on n'imagine pas les députés RN voter en faveur d'un gouvernement en partie insoumis. Ça paraît compliqué. L'inverse est vrai aussi, dans l'absolu, mais voilà. Mais comme aujourd'hui, les motions de censure en France ne sont que des motions de renvoi, des motions de rejet, des motions de renvoi du gouvernement, bon, bah, les députés RN, ils trouvent que ça coûte pas très cher de renvoyer le gouvernement. Effectivement, ça leur coûte rien. Politiquement, ça ne dit rien. Ça ne dit rien d'autre que bou, caca, le gouvernement. Bon, bah, ça, c'est pas très cher. On peut le faire. Donc, ça, c'est une idée. Ça, c'est une idée. La censure, ça entraîne normalement un président gaulliste, le retour aux urnes. Ça, c'est un président autoritaire. Alors, ça fonctionne bien avec De Gaulle, effectivement, c'était un peu le genre du bonhomme, qui en avait globalement rien à branler du Parlement. Donc oui, effectivement. La dissolution post-censure, c'est un move à la... On faisait ça dans les années 60. Bon, depuis, on a fait un peu de chemin, quand même. Heureusement. Mais donc du coup, je vous invite à faire l'exercice intellectuel d'imaginer ce que donnerait une motion de censure constructive dans le Parlement qu'on a actuellement, enfin dans l'Assemblée qu'on a actuellement. C'est pas évident. C'est pas cousu de fil blanc. C'était l'esprit de la Constitution tout de même. Oui, je sais, mais tu m'as l'air d'être très gaulliste, tant mieux pour toi. En ce qui me concerne, je suis plutôt opposé à l'autoritarisme de la Ve République, et je pense qu'il y a un truc qui serait intéressant, c'est de confier le pouvoir de dissolution au Premier ministre. Retirer des mains du Président de la République ce pouvoir phénoménal qui est celui de la dissolution, pour le confier à celui qui, à la différence du Président, est responsable devant l'Assemblée, c'est-à-dire le Premier ministre. Qu'un Premier ministre puisse dissoudre l'Assemblée nationale. Que le retour au peuple puisse être le choix de celui qui risque le plus à ce que le peuple aille dans son sens ou pas. Moi, en tant que parlementariste, ça me paraît plus logique. Celui qui a le pouvoir de dissolution, c'est celui qui a été élu au suffrage. Le Premier ministre n'est pas élu, mais nommé. Il y a un petit souci. Ouais, alors, dans mon monde idéal à moi, le président de la République n'est plus élu au suffrage universel direct. Mais là, je sais que je suis un doux rêveur et que je serai éternellement minoritaire dans ce pays. Parce que voilà, ça n'arrivera jamais. Mais du coup, le président de la République ne servirait plus à grand-chose. Eh bien, ça ne me choquerait pas. Ça ne me choquerait pas beaucoup plus que ça. Tu le ferais élire comment? Le président? J'en sais rien. Par le Congrès? Ou par les grands électeurs? À l'ancienne? Par le Sénat? Ouais, voilà, le Sénat, on s'en fout. Enfin, à partir du moment où on lui retire son pouvoir, j'en ai plus grand-chose à foutre du président, je t'avoue. C'est comme le président allemand. Vous connaissez le président allemand? Personne ne le connaît, tout le monde s'en fout. Tout le monde connaît le chancelier, parce que le chancelier, c'est celui qui a le pouvoir. Et le roi d'Angleterre? On s'en fout du roi d'Angleterre. Il est chef de l'État sur le papier, mais c'est pas lui qui a le pouvoir. Voilà, donc moi j'aimerais bien que le président français devienne quelqu'un dont on oublie le nom. Parce que ce sera pas très important. Je suis pour le suffrage universel direct du président car je veux que le peuple ait une voix directe pour choisir qui a le pouvoir d'utiliser l'arme nucléaire, surtout par les temps qui courent. Ouais, c'est joli sur le papier. La réalité, c'est que les Français en ont globalement rien à foutre des enjeux militaires dès lors qu'il s'agit de voter aux élections présidentielles. C'est pas ça qui compte dans l'esprit des gens quand il s'agit de voter pour un président de la République. On parle de pouvoir d'achat. On parle d'économique et de social, on parle de services publics, on parle d'immigration, on parle de sécurité. Ça, c'est des sujets qui font une campagne présidentielle. La question de l'usage de l'arme atomique. Du coup, t'es pour la 6ème République de la France insoumise. La France insoumise, elle a un mérite immense, c'est qu'elle a réussi à faire avaler à plein de gens qu'elle était la seule à proposer une 6ème République. Et moi, je trouve ça très fort de leur part. En vrai, c'est bien joué, ils ont réussi ça. On fait un gros bisou, évidemment, à tous les communistes, à tous les écolos, à tous les socialistes qui, depuis 40 ans, se battent. Pour une 6ème République. Tout le monde s'en branle. Ils font des colloques, ils font des conférences, ils écrivent des bouquins. Il y avait la convention pour la 6ème République, la C6R, pour ceux qui s'en souviennent, en l'an 2000. Qui avait déjà commencé à l'époque. Waouh! Surtout que c'est Garrido qui poussait le dossier chez LFI. Oui, c'est Raquel Garrido, la Madame 6ème République. Oui, c'est vrai, t'as raison. T'as participé aux travaux de la C6R? Mec, j'avais 12 ans. Je veux bien, hein, non. À l'époque, je faisais du skateboard, hein, c'est à peu près tout. C'était toute ma participation, hein. T'as fait mai 68. Est-ce que t'as voté Mitterrand? Putain, vous êtes chiants. J'ai un autre article sur le remaniement. Putain, il est long par contre. Non, c'est trop relou. Ah mais non, mais en plus, il revient sur tout ce qu'on vient de dire. Non, non, ça sert à rien. Ça sert à rien. J'ai un autre article que je voulais lire avec vous. La question du cordon sanitaire anti-LFI. Alors ça y est, bah évidemment. Depuis la mort de Quentin Derenck, la droite et l'extrême droite sont en roue libre contre la France insoumise, le député Raphaël Arnaud, les liens troubles entre la France insoumise et la violence politique. En tout cas, c'est ce qu'ils disent. Et à gauche aussi, ça commence à monter fort du côté du Parti socialiste. Du côté du Parti socialiste, où la droite du PS met sous pression Olivier Faure sur la question des alliances avec la France insoumise. Vous savez qu'il y a toute une partie des gens proches, disons, de ce qu'on appelle l'espace de la social-démocratie. L'espace de la social-démocratie, ça englobe toute la droite du Parti socialiste autour de Nicolas Meyer-Rossignol, de Jérôme Guège, de François Hollande. Mais ça va aussi chercher à l'extérieur avec Raphaël Glucksmann et avec Bernard Cazeneuve aussi. Donc c'est tout cet espace-là qui va essayer d'aller bouffer une partie de l'électorat issu des macronistes pour recréer un espace social-démocrate en France, qui s'est quand même sacrément effondré depuis 10 ans. Et là, ce camp-là, le camp social-démocrate, a trouvé l'occasion de taper à bras raccourcis sur la France insoumise et surtout sur les tentations que pourrait avoir le Parti socialiste de renouveler des accords électoraux avec la France insoumise. Hop ! Duel RN-LFI à la présidentielle, entre la peste et le choléra, je choisis le vaccin, lance Bernard Cazeneuve. Bernard Cazeneuve, donc, qui n'est pas au Parti Socialiste, qui est à la Convention, qui est le nom de son parti politique à lui, qu'il a créé tout seul il y a 2-3 ans, je crois, un truc comme ça. L'ancien Premier ministre, qui avait quitté le PS en 2022 après l'alliance du NFP, appelle la gauche à prendre des positions extrêmement claires vis-à-vis de la France insoumise. Il soutient un grand rassemblement de la gauche jusqu'à certaines franges de l'actuelle majorité. En claquant la porte du PS en 2022, Bernard Cazeneuve n'avait-il pas annoncé cette prophétie ? Depuis 2024, les relations se tendent entre insoumis et socialistes et le lynchage de Quentin Derenck constitue une apogée. Invité sur BFM TV RMC, Bernard Cazeneuve plaide pour rompre définitivement avec LFI et estime que le mouvement insoumis fait le jeu du RN. Il va à fond, hein. Il va jusqu'au bout. Hein. L'ancien Premier ministre estime que le parti de Jean-Luc Mélenchon est sur une pente antisémite et pointe sa violence extrême, carrément, ainsi que sa relation ambiguë aux institutions et aux principes de l'état de droit. Non mais moi, je veux bien qu'on soit opposé à la France insoumise. Il y a d'excellents arguments à mobiliser. Pourquoi pas, dans un débat intellectuel à gauche, ça peut exister, mais parler de la violence extrême de la France insoumise, c'est quoi la gradation langagière d'après ? Enfin, c'est quoi le niveau supérieur que tu peux mobiliser ? Parce qu'on parle d'un parti qui fait un peu du bruit à l'Assemblée. On parle de Jean-Luc Mélenchon qui parle fort. D'accord, ok. Alors ça peut énerver certains, je peux le comprendre. Il y a même des électeurs que ça effraie, etc. Ok. Mais de là à dire que c'est d'une violence extrême, les gars. Et alors la suite, pardon, mais les relations ambiguës aux institutions et aux principes de l'état de droit. C'est quoi les exemples ? C'est quoi les exemples quand on parle de relations ambiguës aux institutions ? Bah, ils sont pour une 6ème République, ça, d'accord, ok, très bien, ils critiquent la 5ème République, oui, bon, ça, d'accord, c'est pas les seuls. La République, c'est moi, tu crois ? Oh. Relations ambiguës aux institutions. Je veux dire, les insoumis, qu'on les aime ou qu'on les aime pas, c'est pas le sujet. Ils déposent des motions de censure, ils déposent des propositions de loi, des amendements, ils font des commissions d'enquête, présentent des candidats aux élections. La police tue. Ah, tu penses la police ? Ah, c'est peut-être ça, ouais. Ouais, ouais, la police tue. L'institution policière, le ministère de l'Intérieur, etc. Ouais, d'accord, ok. Pourquoi pas ? Et alors, le principe de l'état de droit, alors là, pour le coup, le principe de l'état de droit, la séparation des pouvoirs, tout ça. Il ils ont été critiques des décisions de justice pour Sarkozy et Le Pen. Ouais, mais tout le monde a été critique des décisions de justice, tu vois, c'est pas... Sur l'affaire des comptes de campagne, bah, y a une information judiciaire qui est ouverte contre la France Insoumise, mais c'est pas... Il n'y a pas de remise en cause de l'état de droit. Ah, contre les juges ? Jean-Luc Mélenchon, il a dit procès politique. Ah oui, il a parlé de procès politique ? Ah, c'est pas bien ça. Ah, la glissade. Ouais, bon, alors peut-être que je suis biaisé, c'est fort possible, mais j'ai du mal à trouver de la violence extrême, de l'ambiguïté aux institutions et aux principes de l'état de droit chez la France Insoumise, quoi. L'ancien locataire de Matignon inflige une lourde charge à LFI et tout particulièrement au chef insoumis. Jean-Luc Mélenchon, c'est Charlie Chaplin dans les temps modernes. À chaque fois qu'il bouge un bras, il fait monter le vote RN. LFI est une machine à fabriquer du vote RN par ses excès et ses outrances. C'est un peu... C'est, je comprends l'argument. Je suppose qu'il fonctionne chez certaines personnes. Je trouve, c'est que... Ce que je trouve, c'est que... C'est qu'en fait, c'est un peu faible comme argument. C'est toujours le même argument. Hein. C'est l'argument du miroir en disant « Ouais, mais vous vous comportez n'importe comment, vous faites monter les mecs d'en face. » Genre l'extrême droite fait monter la gauche... La gauche fait la montée de l'extrême droite. C'est un peu à cause de la gauche hein, que l'extrême droite, elle monte. Peut-être que si les antiracistes étaient un peu moins antiracistes, bah les racistes, ils seraient un peu moins racistes. Hein? Tu... Je sais pas. Bon. Ok, pourquoi pas. Il adjure la gauche de gouvernement à prendre ses des positions extrêmement claires vis-à-vis de la formation insoumise qui s'enfonce de plus en plus dans la défense de Raphaël Arnaud. Sur le sujet, il appelle LFI à la reconnaissance de sa faute plutôt que de soutenir le parlementaire. Ouais, enfin, l'enquête est en cours. On est encore très très loin d'une responsabilité directe de Raphaël Arnaud. Peut-être que ça va être révélé, hein, c'est possible. Mais là, pour l'instant, à ce niveau-là, demander à la France insoumise de reconnaître la faute d'un député... Le social-démocrate qui souhaite éviter cette confrontation avec, en 2026, un second tour entre les partis de Jordan Bardella et de Jean-Luc Mélenchon, milite pour la création d'une autre voie avec un rassemblement le plus large possible. Avant de charger, entre la peste et le choléra, je choisis le vaccin. Oui, non, mais oui, d'accord, ok. En fait... Avant le premier tour, tu peux dire ce genre de choses dès lors que tu envisages de participer à la création d'une candidature alternative. Donc en gros, je refuse le duel du second tour et je propose une troisième voie. Très bien, dont acte. Et c'est probablement le rôle d'un responsable politique comme Bernard Cazeneuve de suggérer une alternative qui permette d'éviter le scénario catastrophe d'un second tour qu'on ne veut pas, quel que soit le second tour qu'on ne veut pas. Mais moi, je suis curieux de savoir ce que dira Bernard Cazeneuve si jamais le second tour LFI-RN se profile vraiment à l'horizon. Le président du mouvement La Convention dessine les contours de 2027. Ce dernier appelle à un acte de rassemblement au lendemain des élections municipales des 15 et 22 mars prochains. L'ancien locataire de Beauvau de 2014 à 2016 s'est dit contre l'organisation d'une primaire à gauche. Il faut que cette famille, la social-démocratie, désigne un candidat et que le bloc central ne multiplie pas les candidats. Ce pôle social-démocrate pourrait aller jusqu'aux franges de l'actuelle majorité, a-t-il fait savoir en écho à son entretien dans Ouest France ce week-end. L'objectif principal pour ce dernier reste avant tout de battre le RN. Un temps courtisé par Emmanuel Macron pour devenir Premier ministre après la dissolution, Bernard Cazeneuve fait aussi partie des candidats putatifs à l'élection présidentielle à gauche. Je ne réfléchis pas à ma situation personnelle. Il y a mille manières de servir. Je ne fais pas de cette affaire une affaire personnelle. Je cherche à éviter le pire, a-t-il esquivé de manière tout à fait habile pour ce cher Bernard Cazeneuve. En fait, Il y a deux raisons qui font que je pense que c'est un peu mort dans l'œuf, cette tentative de Bernard Cazeneuve, mais aussi de François Hollande, mais aussi de Raphaël Glucksmann, de tirer le Parti socialiste vers la social-démocratie et vers cette espèce d'offre politique nouvelle qui émergerait pour partie du macronisme et pour partie du socialisme, c'est qu'en fait, électoralement, ça ne marche pas. Je veux dire, on peut penser ce qu'on veut des écolos, on peut penser ce qu'on veut du PCF, mais c'est quand même un espace politique qui représente quelques personnes. À la différence de la droite du Parti socialiste et d'une partie des macronistes qui ne représentent pas grand monde. Enfin, j'ai du mal à voir le pari fou qui ferait que le PS se mettrait derrière un Raphaël Glucksmann et ferait un score dithyrambique au premier tour de la présidentielle. J'ai pas l'impression que Raphaël Glucksmann se dirige vers un score énorme, quoi. Je sais pas. Je dis pas que la primaire est la plus à même de faire un score phénoménal. Je pense pas. Je pense que c'est possible, mais je pense qu'on en est encore loin et que les conditions d'alignement de planètes sont compliquées. Mais en fait, je trouve ça très incantatoire. Mais en même temps, c'est par l'incantation qu'on fait de la politique aussi. Dans ces moments-là, c'est normal, mais je trouve ça très incantatoire, par exemple, de présupposer que des électeurs macronistes vont quitter le macronisme en masse pour venir voter pour un candidat qui serait élu issu de la social-démocratie. Pourquoi les macronistes arrêteraient d'être macronistes? Pourquoi des électeurs qui ont remporté deux élections présidentielles coup sur coup changeraient d'avis, en tout cas une bonne partie d'entre eux, pour aller apporter leur voix à une offre nouvelle social-démocrate? Je veux dire, ils ont Gabriel Attal, ils ont Édouard Philippe. Je veux dire, on peut pas dire qu'on manque de macronistes dans ce pays. La convention, c'est Cazeneuve, Glucksmann, Gage et le petit parti de Pompili et les chevènementistes. Pas du tout. La convention, c'est Cazeneuve tout seul. Glucksmann, c'est un parti qui s'appelle Place Publique. Jérôme Gage, c'est le Parti Socialiste. Et le parti de Pompili, c'est Territoire de Progrès. Et les chevènementistes, je ne sais plus où ils sont aujourd'hui. Je sais pas. On verra. On peut être surpris. Vraiment, on peut être surpris. On peut être surpris par les dynamiques que prennent l'élection présidentielle. Parce que, mettons par exemple qu'on se dirige dans une élection présidentielle à partir du mois de septembre prochain, où on voit se dégager clairement une très forte solidité du Rassemblement National, qui sera de toute évidence au second tour, et une candidature Jean-Luc Mélenchon qui marche bien, qui fait son effet comme il l'a déjà fait à deux reprises, qui réussit à la tortue sagace, qui monte, et qui est en passe de se qualifier au second tour. Pour les gens qui ne veulent pas que ce second tour advienne, quelle sera la dynamique de vote ? Est-ce qu'il y aura du vote utile ? Est-ce qu'il y aura du rassemblement ? Est-ce qu'une candidature peut émerger de nulle part ? Et si oui, laquelle ? Parce que pour l'instant, je trouve qu'il y a beaucoup de monde, qui se bouscule au portillon pour proposer une alternative. Je veux dire, on a quand même Retailleau, Édouard Philippe, Gabriel Attal probablement, Raphaël Glucksmann, et le vainqueur de l'hypothétique primaire avec les socialistes, les écolos et les anciens insoumis. Ça fait du monde quand même. Ça fait quand même du monde. Oui, après, il y a De Villepin évoqué. Non, mais si on commence à rajouter les hypothétiques, effectivement, on peut aller très loin. Et Jérôme Guedj, ouais, Guedj. Alors Guedj, il a dit qu'il était candidat à la présidentielle sans passer par la primaire. Moi, ce que j'en ai compris, c'est que Jérôme Guedj, il était candidat à la désignation par cette branche social-démocrate. Voilà, c'est ça que je pense. Tout au plus. Est-ce que tu penses qu'ils auront tous les 500 signatures nécessaires? Alors Retailleau, il aura les 500 signatures sans problème. Le candidat du PS, il aura les 500 signatures sans problème. Les macronistes, ils sont toujours démerdés pour l'obtenir et ils réussiront à l'obtenir à nouveau. Ça, j'ai pas trop de doutes sur un Gabriel Attal et surtout un Édouard Philippe. Édouard Philippe, il a beaucoup d'élus locaux avec lui. Ouais. Non, je m'inquiète pas trop pour eux, pour les 500 signatures. Est-ce qu'un maire peut donner sa signature à plusieurs candidats? Non. Sauf pour la primaire du Front Populaire 2027, où les organisateurs ont annoncé qu'un même maire pourra donner deux ou trois signatures, je crois, au total. Du coup, il y a une limite de candidats mathématiquement. Ouais, on avait calculé, je crois qu'il y a 82 candidats possibles. Mais c'est une possibilité purement mathématique, c'est-à-dire que ça n'arrivera jamais. Avec cette diabolisation, c'est pas dit pour LFI d'avoir les 500? Bon, ils n'ont jamais eu de problème, ils ont toujours réussi à les obtenir, les 500 signatures, la France Insoumise. Et puis en plus, ils nous ont promis de faire une très très bonne campagne municipale et d'obtenir plein de maires. Donc. Quatre-vingt-deux candidats avec moins de 2% par candidat, personne ne sera remboursé. On fera la campagne présidentielle la plus économe pour l'État de l'histoire. Au moins, on n'aura pas perdu de pognon. On n'aura pas réussi à trouver un président fiable, mais on n'aura pas perdu d'argent. Bah, hey, bon deal! Bon deal! Je suis endetté personnellement à hauteur de 5 millions d'euros. 5 millions d'euros. Justement, puisqu'on en parle, on vient de voir donc cet article sur Bernard Cazeneuve qui appelle à faire un. À cesser toute forme d'alliance entre des socialistes et des insoumis, parce que les insoumis seraient devenus infréquentables. À remarquer aussi un truc intéressant, c'est que le Parti socialiste est un petit peu gêné sur cette histoire de proximité avec la France insoumise. Olivier Faure n'a reconnu que du bout des lèvres qu'il existait quelques villes dans lesquelles les insoumis et les socialistes étaient ensemble, ou pourraient être ensemble à l'occasion d'un second tour. Le truc, c'est que les socialistes n'ont pas le choix. S'ils veulent gagner des élections municipales, ils ont besoin de faire des alliances locales dès lors que la France insoumise obtient la barre des 10%. Et la France insoumise, de son côté, si elle veut obtenir des mairies, il y a peut-être des villes dans lesquelles elle aura besoin de faire des accords de second tour avec des socialistes. Donc pour le coup, c'est moins gênant du côté de la France insoumise, plus gênant du côté du Parti socialiste, qui du coup ne peut pas crier avec les loups. Parce que c'est aussi ça qu'il faut garder en tête, c'est ça que je trouve rigolo, c'est que Bernard Cazeneuve Raphaël Glucksmann, François Hollande, Jérôme Guedj n'arrêtent pas de taper sur Olivier Faure en lui reprochant de faire des alliances pour les élections municipales avec LFI. Mais tous ces gens-là, ils n'ont pas d'enjeu municipal. Ils n'ont pas d'enjeu. Genre, en fait, eux, c'est gratos. Ils peuvent le dire facilement dans un micro sur un plateau télé. Ah, vas-y, tranquille. Ah non, la France Insoumise, plus jamais. Comment ça, plus jamais? Attends, si t'étais à la tête d'un parti qui a besoin éventuellement de faire des accords avec la France Insoumise, tu dirais pas ça. LFI a beaucoup de mairies sortantes? Non. Je crois que de mémoire, LFI, ils ont genre deux petites villes. Le PS, ils ont 2000 têtes de liste. Donc voilà, ceci explique aussi cela. C'était ça que je voulais vous dire. C'était ça que je voulais vous dire aussi, c'est attention, quand vous entendez quelqu'un qui parle dans un micro, posez-vous la question aussi de qu'est-ce que ça lui coûte à lui de dire ça ? Est-ce qu'il est en position de pouvoir faire l'inverse ou de devoir faire l'inverse ? Ou d'être tenté de faire l'inverse ? Et moi, je trouve qu'il y en a qui parlent beaucoup parce qu'ils n'ont rien à perdre. Et en l'occurrence, Bernard Cazeneuve, je ne sais pas dans combien de villes est-ce que son parti politique, la Convention, a présenté des candidats, mais pas spectaculaire, quoi. Alors, j'ai un article sur le cordon sanitaire avec la France Insoumise, justement. Bah, on en parlait, on va continuer à en parler. Mort de Quentin Derenque, les Républicains appellent à un cordon sanitaire autour de la France Insoumise. À l'image de Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau, les dirigeants LR voient dans le meurtre du jeune militant identitaire une continuité avec la violence verbale de la France Insoumise et dénoncent la possibilité d'accord entre le PS et LFI pour les municipales. Pour attaquer la France Insoumise, le terrain médiatique est tout indiqué. Dans un entretien au JDD, dimanche 22 février, Laurent Wauquiez dénonce une formation politique toxique pour notre vie démocratique, qui doit être isolée et ostracisée politiquement, au point d'en demander la dissolution. L'interroge-t-on ? Je rêverais de pouvoir vous dire qu'il suffit de dissoudre LFI, mais ce n'est pas ainsi qu'on gagne une bataille politique, répond le patron des députés Les Républicains. À droite, seul le sénateur des Bouches-du-Rhône, Stéphane Le Rudulier, demande depuis 3 ans la dissolution de LFI. Mais donc la dissolution de l'organisation n'est pas réclamée par Laurent Wauquiez, qui dit que de toute manière, ce n'est pas avec une dissolution qu'on réussit à mener la bataille politique. À défaut d'en arriver là, d'autres préconisent l'installation d'un cordon sanitaire autour des insoumis. C'est le cas du président LR Bruno Retailleau. Pas une voix ne doit aller vers les candidats insoumis, assurait-il en marge d'un déplacement en Seine-et-Marne, jeudi 19 février. L'idée n'est pas nouvelle, mais s'imposerait d'elle-même après l'implication de plusieurs collaborateurs parlementaires, du député LFI du Vaucluse Raphaël Arnaud, dans la mort du militant nationaliste Quentin Derenque le 14 février à Lyon. LFI a transformé l'Assemblée nationale en champ de bataille. Or, la violence verbale ouvre les portes à la violence physique, estime M. Retailleau. Encore une fois, on en a déjà parlé plusieurs fois de la violence des députés LFI dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, qui n'existe qu'au regard du relatif calme des députés Renaissance parce qu'ils sont dans le soutien au gouvernement et des députés RN parce qu'ils sont dans la stratégie de la cravate et de la dédiabolisation. Mais la France Insoumise n'est pas particulièrement ni violente ni bruyante à l'Assemblée nationale. Dans son entretien au JDD, Laurent Wauquiez revendique l'antériorité sur ce concept de cordon sanitaire. « Je plaide pour cela depuis des mois », affirme le rival de M. Retailleau. À l'époque, l'entourage du député de la Haute-Loire théorisait cette approche. Diaboliser LFI, c'est exiger aux autres partis de gauche de rompre avec eux. Et donc, d'empêcher une nouvelle union électorale entre les troupes de Jean-Luc Mélenchon et les autres formations de gauche, comme lors des législatives en 2024. Ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Qu'est-ce que ça leur coûte aux Républicains de demander aux socialistes de ne pas faire d'alliance avec LFI ? Vraiment, c'est gratos. C'est facile de le dire. Quand il dit, genre, diaboliser LFI, c'est exiger aux autres partis de gauche de rompre avec eux. Bah, mêle-toi de tes fesses. Et justement, tes fesses, on va en parler, parce que tout ça, évidemment, n'est pas sans sous-texte. Évidemment que la stratégie de dédiabolisation de la France insoumise, c'est aussi une stratégie de dédiabolisation de Marine Le Pen. Parce que quand tu mets un cordon sanitaire à gauche, tu justifies le fait qu'il n'y a plus besoin de cordon sanitaire à droite. La rhétorique est connue et bien pratique. Pour esquiver la question d'une alliance avec l'extrême droite, les dirigeants LR montrent du doigt les écologistes, mais surtout les socialistes. François Hollande l'a fait, mais les dirigeants actuels du Parti Socialiste doivent assumer une rupture nette avec LFI, affirme Othmane Nasrou, secrétaire général des Républicains. Quand j'entends mon homologue socialiste, qui s'appelle Pierre Jouvet, évoquer des désaccords au second tour des municipales, je me dis qu'on en est encore loin. Ben oui, on en est encore loin. Pierre Jouvet, justement, a pourtant démenti vendredi auprès de l'AFP tout accord entre socialistes et insoumis. Ce proche d'Olivier Faure a cependant évoqué la possibilité, dans de rares cas de figure, de voir des candidats insoumis rejoindre des listes d'union de la gauche au second tour, mais ces derniers doivent clarifier leur position sur le rapport de leur mouvement à la violence politique et à cette forme d'hooliganisme de la vie publique. Des précisions inaudibles pour la sénatrice LR de Paris, Agnès Evren, le Parti Socialiste, n'aurait-il pas hurlé au scandale si Bruno Retailleau avait évoqué des alliances LR-RN ? Dans de rares cas de figure, s'interroge sur X, la porte-parole de LR. C'est intéressant qu'Agnès Evren, porte-parole des Républicains, fasse elle-même le lien entre le cordon sanitaire à gauche et le cordon sanitaire à droite. C'est-à-dire que les Républicains n'ont pas de problème, si on suit ce qu'a dit Agnès Evren, les Républicains n'ont pas de problème à envisager des alliances avec le Rassemblement National. Donc c'est vraiment, ok, ça a le mérite de, disons qu'on a le mérite de vivre dans une période de clarté politique qui fait que les masques tombent et que on voit les choses de manière beaucoup plus claire. Donc pour Agnès Evren, des alliances à l'ère Rassemblement National, c'est quelque chose de naturel, à la différence des alliances entre le PS et LFI qui sont absolument intolérables. C'est à ça que sert ce cordon sanitaire entre LFI et le PS. À l'image de l'eurodéputé François-Xavier Bellamy, certains cadres LR sont prêts à faire un barrage républicain quand les mêmes dénoncent le front républicain face au Rassemblement National. Pour Bruno Retailleau, les électeurs sont libres et les consignes de vote appartiennent à la politique de grand-papa. Oui, bon ça on verra. Même les plus jeunes sont pourtant en âge de se souvenir des élections législatives à l'été 2024. Sans y participer, les républicains avaient été les bénéficiaires de ce front républicain. Sans lui, certains députés ne siégeraient pas aujourd'hui à l'Assemblée. À l'époque, 26 d'entre eux avaient bénéficié du retrait d'un candidat de gauche pour faire barrage au RN. 7 avaient même profité du désistement d'un adversaire LFI. Ça, c'est un moment hyper important dans l'article et c'est une des raisons pour lesquelles je voulais lire cet article. C'était pour vous rappeler comment ça fonctionne un front républicain. Parce que là, il y a des gens qui disent « front républicain contre LFI ». Il faudrait imaginer créer un front républicain contre LFI. Le front républicain, c'est la combinaison de deux comportements au second tour d'une élection, notamment législative, mais ça marche aussi pour des municipales, etc. C'est la combinaison d'un comportement de la part des appareils politiques et notamment des candidats à l'élection et à côté d'un comportement des électeurs et des électrices. Le comportement des candidats aux élections dans un front républicain, ça consiste à faire ce qu'on appelle le désistement républicain. Si je suis en situation de me maintenir au second tour d'une élection, mais que mon maintien au second tour serait de nature à favoriser la victoire d'un candidat anti-républicain, d'extrême droite historiquement, alors je retire ma candidature, j'accepte de ne pas concourir au second tour pour indirectement favoriser une autre candidature mieux placée que la mienne pour remporter et ainsi faire barrage. Ça, c'est le premier comportement du Front républicain. Le deuxième comportement, c'est les électeurs et les électrices. Ce sont des hommes et des femmes qui acceptent d'aller voter au second tour pour le candidat le mieux placé face à un candidat d'extrême droite, de manière à faire barrage à l'extrême droite et l'empêcher de gagner. Et il faut que les deux fonctionnent si vous voulez qu'un front républicain fonctionne. C'est ce qui s'est passé en 2024. 2024 a été une élection particulière. Je vous rappelle l'ambiance de l'époque, le RN était en passe d'obtenir plus de 300 députés. La majorité absolue. À l'époque, je vous rappelle qu'on parlait de Jordan Bardella, Premier ministre. C'était sûr, c'était écrit. Ceux qui étaient sur le stream se souviennent, on avait lu des articles, notamment du Figaro, qui faisaient des projections en imaginant que Jordan Bardella allait gouverner le pays dès 2024. Et il y a eu plein de désistements républicains. Partout en France, il y a eu des candidats qui se sont retirés du second tour pour permettre à un autre candidat mieux placé de faire barrage à l'élection du Rassemblement National. Et dans les désistements républicains, il y a 7 candidats LFI qui se sont désistés en faveur d'un candidat LR. C'est ça l'histoire du Front Républicain. Des gens issus d'une tradition politique de la résistance, du communisme notamment, mais pas seulement, qui acceptent de se désister pour empêcher l'extrême droite d'avoir un siège. Au total, il y a 26 députés, les Républicains, qui ont été élus ou réélus grâce à un retrait d'un candidat de gauche. 26. C'est énorme. Inversement, des candidats de gauche ont aussi été élus grâce au désistement de candidats de droite ou macronistes. Il y a aussi eu du désistement républicain de macronistes. Ça, c'est déjà arrivé. RIP à ceux qui sont désistés en faveur d'un ciottiste. Alors Ciotti, non, parce que Ciotti, il avait l'UDR à ce moment-là, qui était déjà allié du RN. Une fois élus, ils se sont dépêchés de cracher sur la gauche et d'ouvrir le dialogue avec le groupe RN. Ah mais ça, après, une fois que t'es élu, ça t'engage pas pour autant. Hein. Notamment pour un vote de barrage. Un vote de barrage ne t'engage pas nécessairement sur le fond des dossiers que tu vas avoir à traiter. Hein. Hop. Une histoire récente, mais très vite oubliée à droite. À un moment, à un mois du premier tour des municipales, les Républicains entendent poursuivre leur campagne anti-LFI et appuyer sur les liens entre la jeune garde de Raphaël Arnaud et le mouvement de Jean-Luc Mélenchon, pardon. Au risque d'avoir une vision hémiplégique de la violence politique, l'extrême gauche a du sang sur les mains, assure Laurent Wauquiez. En 2022, les dirigeants LR étaient moins mobilisés pour dénoncer le meurtre de l'ancien rugbyman Federico Martin Aramburu par deux anciens militants du GUD. Dans un texte publié par la Tribune dimanche, Xavier Bertrand met en garde contre le danger de ne voir la violence que d'un côté. « La banalisation des extrêmes a altéré notre discernement », écrit le président LR des Hauts-de-France. Et d'ajouter « À peine l'émotion exprimée que certains à l'extrême droite s'en saisissent pour s'absoudre de leur propre passé, désignant l'extrême gauche comme unique péril pour notre démographie et se présentant comme seul garant de l'ordre républicain. Le message sonne de la part de celui qui revendique son positionnement, ni RN ni LFI, comme un avertissement destiné à un parti incapable de dire autre chose que « ni LFI ». Très jolie conclusion de papier sur la citation de Xavier Bertrand, qui est définitivement bien seul dans sa famille politique à essayer d'alerter contre la montée de l'extrême droite. Voilà pour ce papier donc, qui a le mérite de refaire le point sur cette histoire de cordon sanitaire à gauche, soi-disant, et de cordon sanitaire à droite, de Front Républicain aussi. On verra en fait ce qui sera extrêmement intéressant à regarder, déjà au municipal, mais surtout aux législatives après la présidentielle, c'est les désistements, les capacités de désistement des candidats pour empêcher la victoire du Rassemblement National. Xavier Bertrand privilégie également son intérêt personnel, lui qui est face au RN lors des régionales. Oui, alors putain, t'es gentil, mais tu présentes ça comme s'il avait un espèce de conflit d'intérêt. Bertrand, il se bat contre le RN. C'est, oui, évidemment qu'il change pas de discours entre ce qu'il dit dans la région des Hauts-de-France et ce qu'il dit au niveau national. Donc on verra. Moi, ce que je prédis, on verra, mais ce que je prédis, c'est que dans beaucoup de villes, il y aura des accords de second tour entre les socialistes et les insoumis. Je pense que les insoumis vont vouloir faire des fusions de listes pour avoir des élus dans les conseils municipaux. Et je pense que les socialistes n'auront pas le choix que de faire des accords avec les insoumis s'ils veulent conserver ou gagner de nouvelles villes. Même à Paris? Ouais, même à Paris, ouais. Oui, même à Paris, bien sûr. À Paris, on avait Emmanuel Grégoire qui, au début de la campagne, disait jamais LFI. On avait Sophia Chikirou qui disait plus jamais PS. Après, ils ont tous les deux mis de l'eau dans leur vin. Et puis, entre les deux tours, vous verrez qu'ils vont finalement dealer un accord. Parce que sinon, c'est Rachida Dati qui est élue maire de Paris. Ce serait quand même dommage. Ou alors, Sophia Chikirou n'arrive pas à se qualifier au second tour. Auquel cas, Emmanuel Grégoire tentera de faire un accord avec Pierre-Yves Bournazel. Tout ce qui va réussir à déterminer la capacité du PS et d'LFI à faire un accord à Paris, ce sera la capacité d'LFI à se qualifier au second tour. Mais j'ai envie de dire, ce que je viens de dire est valable pour beaucoup de villes en réalité. Je comprends pas trop le système des élections à Paris. Laisse tomber les arrondissements, on s'en fout, déjà. Alors, chaque arrondissement, on fait une petite municipale, mais on s'en fout un peu. Ce qui compte, c'est le Conseil de Paris. Il y a une élection proportionnelle avec un maintien au second tour à 10% des voix. Ça veut dire qu'il faut faire minimum 10% des voix au premier tour pour pouvoir se maintenir au second tour ou fusionner sa liste. Après, je crois que la fusion est possible des 5%, mais si tu fais 7%, je suis pas sûr qu'on ait intérêt à fusionner avec toi. On vote pour les conseillers. Ouais, on vote pour les conseillers. On vote pour le Conseil de Paris, et le Conseil de Paris, c'est le Parlement de Paris. N'oubliez pas au moment de voter que les municipales ont également un énorme impact sur le bord politique du Sénat. Oui, alors. Déjà, c'est valable au second tour, parce qu'au premier, ça ne change pas grand-chose. Et ensuite, le Sénat, c'est pas déterminant. Ouais. Merci Père Castor. Donc effectivement, dans la foulée du meurtre de Quentin, la pression continue à monter sur la France Insoumise, mais là, on commence à voir, et c'est intéressant, que la pression ne s'adresse pas directement à la France Insoumise, mais commence à viser les alliés de la France Insoumise, et notamment les socialistes, et les écologistes aussi. J'ai vu qu'Yannick Jadot avait pris la parole pour dire qu'il fallait plus d'accord avec les Insoumis. Pareil, Yannick Jadot, il n'est pas décisionnaire hein, chez les écolos, mais bon. Jadot, c'est un pote de Glucksmann. Bah, Jadot, il n'est pas sur la même ligne que Marine Tondelier. Marine Tondelier, elle essaye de faire l'équilibriste entre les insoumis d'un côté et les socialistes de l'autre. Et puis, elle est du coup en opposition avec Sandrine Rousseau d'un côté, qui est plutôt proche des insoumis, C'est un peu vite dit, mais c'est l'idée. Et de l'autre côté, Jadot... Ouais, Jadot qui est plutôt proche des socialistes, on va dire ça comme ça. De la droite du Parti Socialiste. Donc, je ne sais pas si le rôle de trait d'union que se donne Marine Tondelier va beaucoup lui servir à l'avenir. Je ne sais pas, je ne me rends pas compte. ELV est devenu un satellite de LFI. Pas vraiment, hein. Pas vraiment. ELV, c'est très autonome, hein. C'est très... C'est pour le coup assez bien... C'est pour le coup assez bien à mi-chemin entre LFI et le PS, quoi. Ils sont plus unionistes qu'une partie du PS. Et quand je dis « ils », je parle de la direction du... La direction des écologistes. Moi, à l'heure actuelle, si je devais voter au présidentiel, ce serait Marine Tondelier. Je ne sais pas si elle sera candidate. Hein. Je suppose qu'elle sera candidate. Mais j'en suis pas sûr. C'est trop long comme nom de parti ELV. EELV n'existe plus. Mesdames et messieurs, ça fait plusieurs années maintenant, il va vraiment falloir qu'on arrête. EELV, ça voulait dire Europe Écologie Les Verts, c'était la fusion de deux partis politiques, Europe Écologie et Les Verts. C'est devenu Les Écologistes. C'est le nom du parti aujourd'hui, c'est Les Écologistes. Voilà. Mais ça fait un bout de temps maintenant. Elle est candidate des écologistes à la primaire de la gauche, donc candidate à la présidentielle. Ah oui, t'as raison, bien sûr. Non, excuse-moi, j'avais oublié la primaire, mais oui. Mais oui, non, t'as raison. Marine Tondelier a été investie candidate des écologistes pour la primaire de la gauche. Donc elle va être candidate à la primaire, si la primaire a bel et bien lieu. Et ça dépendra du vote des militants socialistes, qui aura lieu après les municipales. Si le Parti Socialiste sort renforcé des municipales, ce sera un succès personnel pour Olivier Faure, qui inclinera peut-être les militants socialistes à voter en faveur de la primaire souhaitée par Olivier Faure. Mais oui. Est-ce qu'ils peuvent appeler ça une primaire de gauche sans tous les partis de gauche ? Oh, moi, j'ai connu le Front de Gauche à une époque. Hein. Ça les dérangeait pas plus que ça, donc non. Disons que c'est une prétention. Et d'ailleurs, ils te répondraient qu'ils invitent toute la gauche à y participer. Hein. C'est pas de leur faute s'il n'y a pas toute la gauche. Et si les socialistes ne vont pas à la primaire, ils désigneront leur candidat comment ? Soit ils feront une primaire interne au PS, soit ils feront un congrès du PS. Mais ça, c'est ce qu'on appelle la stratégie de l'autonomie. La stratégie de l'autonomie, c'est la stratégie qu'on a notamment au Parti communiste. Avec Fabien Roussel qui, depuis 2022, nous explique qu'il faut absolument un candidat communiste à l'élection présidentielle. C'est très très important. Chacun son candidat. C'est important d'affirmer l'identité du parti. Et donc voilà. C'est comme ça qu'on se retrouve avec des candidatures qui font 2%. Parce que c'était la stratégie d'Anne Hidalgo. Je dis pas que la stratégie unioniste est une stratégie gagnante, je dis pas ça. Je dis que la stratégie d'autonomie s'avère souvent être une stratégie perdante. Pas toujours, mais souvent. C'est quoi le principe d'une primaire ? Une primaire, c'est une préélection qui permet de choisir un candidat à l'élection. Voilà. C'est une méthode qui permet à plusieurs partis politiques, ou à un seul parti politique, de déterminer parmi plusieurs candidats lequel ou laquelle ils veulent pour l'élection. Voilà, c'est une préélection. Est-ce que c'est déjà arrivé qu'une personne perde une primaire mais se présente quand même à l'élection présidentielle? Non. Non. Non, quand t'es cramé, t'es cramé. Enfin, je veux dire, si t'as perdu une primaire, c'est très très compliqué de former derrière une candidature. Rien ne l'empêche formellement, mais enfin, en termes de dynamique politique. Par contre, il va défendre un autre candidat, ça existe. Oui, c'est Manuel Valls notamment qui avait fait ça. François de Rugy également, qui avait soutenu Emmanuel Macron. Ce serait quoi la différence entre le Congrès et une primaire du PS? Bah, le Congrès, c'est l'instance du Parti socialiste qui pourrait être amenée à prendre une décision. Alors, non, parce que le Congrès, c'est plutôt un texte d'orientation, mais disons que le Congrès, il est réservé aux adhérents. C'est l'Assemblée générale des adhérents, le Congrès. Alors que la primaire, on peut supposer que c'est une primaire ouverte à tous les sympathisants du parti qui sont invités à venir voter. Voilà. Comment Hidalgo a-t-elle été choisie? De mémoire, Anne Hidalgo, elle a été désignée par les instances du parti. Hein. Anne Hidalgo, elle a été désignée candidate par un vote du Conseil national du Parti socialiste. Donc je crois que les adhérents socialistes n'ont pas été consultés plus que ça. Hein. C'était la candidate. À l'époque, dans le contexte, c'était la candidate qui s'imposait le plus naturellement pour le Parti socialiste parce qu'elle était à la tête d'une union de la gauche depuis 20 ans, qu'elle était maire de Paris, que c'était la plus grande ville socialiste, et que de toute façon, il n'y avait pas grand monde qui voulait être candidat, quoi. Après, on peut réfléchir pendant 1000 ans. Est-ce que Marie, est-ce que Anne Hidalgo, elle allait pas au casse-pipe d'une manière ou d'une autre? Enfin, je veux dire, est-ce qu'elle avait des chances de faire mieux que les 2% qu'elle a fait? Autre manière de poser la question, c'est quelle est la responsabilité personnelle d'Anne Hidalgo dans le fait que son score n'a pas été très important? Est-ce que c'était pas un peu couru d'avance? Voilà, ça, j'en sais rien. Je vous renvoie à tout ce que j'ai pu dire à l'époque sur le sujet. Pas beaucoup changé d'avis. Est-ce qu'une nouvelle grosse défaite du PS et des Républicains, ça provoquerait pas la disparition de ces partis? Non, parce que c'est des partis qui résistent bien au niveau local. C'est des partis qui existent au niveau local et qui sont assez puissants au niveau local. C'était quand même une cata pour le PS de finir à 2% derrière Jean Lassalle. Oui, bien sûr, c'était une cata. Pour un parti socialiste qui a fait élire 3 fois un président de la République en France, faire 2%, c'est dur. Ça, c'est certain. Jamais on laisse la ville à Dati. Les voies sur Seine resteront pour les piétons, c'est marre. Ça, c'est pas sûr que ça arrive, hein. Notamment si le PS et LFI n'arrivent pas à se mettre d'accord. Sans la NUPES, ça aurait été difficile de se relever pour le PS. Oui, Et c'est aussi grâce au PS que la NUPES a pu faire le score qu'elle a fait à l'époque. Hein. L'avantage, c'est qu'en faisant 2%, on peut faire que mieux. Oui. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, t'as raison. À quel point est-ce que les 2% de 2022 ont impacté la trésorerie du PS? Bah, au point que le PS a dû vendre son immeuble. Le PS a vendu son siège historique. Hein. Le siège de la rue de Solferino a été vendu par le parti pour rembourser ses dettes. Et ensuite, ils sont allés s'installer à Ivry-sur-Seine, où ils sont restés 2 ans, je crois, avant de revenir quelque part dans Paris. Je ne sais pas où ils sont maintenant. C'était pas avant 2022 la vente? Non, je crois pas. Si, c'est 2017? Ah ouais, c'est la Bérésina, c'est au moment de... Au moment de Benoît Hamon. D'accord. Ça aurait été marrant que Mélenchon rachète le siège historique. Disons que ça aurait rappelé à tout le monde qu'il a passé 40 ans au Parti Socialiste. Je ne suis pas sûr que vous avez envie de qu'on vous rappelle ça. Et puis par ailleurs, non, Mélenchon, il s'est rapproché du Parti Ouvrier Indépendant pour installer le siège de la France Insoumise. Pas sûr que ce soit des bons souvenirs à Solfay. Bah ouais, d'autant que la salle du Conseil National, elle leur serait devenue quoi? Non, je sais pas. Non, vous pensez qu'on aura des alliances de second tour entre les insoumis et les socialistes à l'élection, aux élections municipales? Moi, je sais pas, j'en doute. J'en doute vraiment. Ça dépendra des villes. Tu penses qu'il y aura le grand écart assez spectaculaire? Enfin, oui, il y aura peut-être pas de consigne nationale, c'est vrai. Il y aura peut-être pas de consigne nationale. Impact de non-agression dans les médias, ouais, c'est possible. Il y aura alliance pour les candidats peu médiatisés. Ah, tu penses? Tu penses que c'est la tension médiatique qui va peser dans la balance du fait de faire des alliances ou non? Je sais pas, je suis... Je... Ouais, ouais, peut-être. Ne pas le faire serait un suicide pour les deux parties. Il y a un moment, ils vont se mettre autour de la table, se parler entre eux et arrêter de se parler par médias interposés. Oui, c'est ce qu'on appelle la NUPES et le NFP. C'est-à-dire que oui, oui, c'est qu'à un moment donné, ils s'envoient des fions dans les médias depuis des années, la tension monte, les gens s'engueulent. Et à la fin, ils se réunissent dans une salle et ils discutent. On met Olivier Faure et Jean-Luc Mélenchon qui s'assoient autour d'un café et qui discutent. C'est difficile de croire qu'il n'y aura pas d'alliance, sachant qu'il y en a eu en 2022 et 2024. Ils savent défendre leurs intérêts. Moi, je suis d'accord avec toi. Moi, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il y a trop à perdre. Il y a trop à perdre d'un côté comme de l'autre. Les socialistes ont à perdre un ancrage local fort avec des mairies qui seront perdues. Et le LFI a à perdre une absence d'ancrage local qu'ils essayent de conquérir. Et si le prix à payer pour parvenir à leur fin, c'est de faire alliance, ils feront alliance. Je sais pas, c'est ce que je me dis comme ça, un peu à la volée. En fait, on se met d'accord vite fait et on s'engueulera après. Oui, c'est ça. Oui, non, mais c'est ça, c'est ça. C'est toujours la logique des accords électoraux. On se retrouve après, ouais. Hop. Les copains, je reprends mon journal de la semaine dernière pour vous rappeler un truc important. Libé Backseat, montée au front. L'émission a lieu demain à 19h. Je vous invite à mettre un rappel dans votre agenda. Demain, 19h, émission spéciale de Backseat en partenariat avec Frontal de Libé. On va vous parler de la montée de l'extrême droite dans les élections municipales. Et on va faire cette émission à Toulon. On va faire cette émission à Toulon. Donc ce sera bien demain et non pas jeudi. Pas mal. Pas mal. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans l'actu ? Moi, j'ai regardé un petit peu. J'ai regardé un petit peu, je vous ai lu les articles que je voulais lire avec vous sur le remaniement, sur le cordon sanitaire, sur Bernard Cazeneuve aussi, les sociaux-démocrates. Aurore Berger. Ah oui, elle a dit quoi déjà, Aurore Berger ? Elle a parlé de l'anti-France. Elle a dit que LFI, c'était l'anti-France. Voilà, bon, c'est une référence d'extrême droite. Hein. Pour ceux qui ne savent pas, l'anti-France, c'est une référence monarchiste. Ouais, c'est Charles Maurras, donc c'est avant la collaboration. Ça désigne les juifs, ça désigne les francs-maçons. Ça désigne les protestants, les métèques, comme on disait à l'époque pour désigner les étrangers, de manière péjorative. TLDR, ça pue. Ouais, ça pue. Ça pue. Elle n'a pas déjà fait une référence à Maurras comme ça, ou c'est une autre macroniste ? Non, tu confonds avec la candidate à la mairie de Marseille, Martine Vassal, qui est soutenue par les Républicains, qui est son parti d'origine, mais elle est aussi soutenue par les macronistes. Martine Vassal, elle a déclaré dans un débat télé avec Benoît Payan que ses valeurs à elle, c'était le mérite, le travail, la famille et la patrie. Benoît Payan qui lui a dit « Mais quoi ? Hein ?» Et elle a répété, elle a dit « Le travail, la famille et la patrie. » Mais t'es bête, madame ? mais parce que on peut pas ne pas savoir. Enfin, il y a des gens qui savent pas très bien. Ça peut arriver. Les jeunes, etc. Ils ont pas encore la culture politique. Mais quand on a un chouïa de culture politique, on sait qu'il y a des mots qui marquent des époques. Travail, famille, patrie, c'était littéralement le slogan de l'État français de Philippe Pétain. Donc, c'est ce qui a remplacé liberté, égalité, fraternité. Pour le régime de Vichy. C'est un dog whistle ou de l'ignorance ? Non, je pense pas que ce soit un dog whistle, je pense que c'est de l'ignorance. Je pense vraiment que c'est de l'ignorance, hein. Je pense que... Je sais pas, elle s'est pas rendue compte de ce qu'elle disait... Elle comprend rien à l'histoire, elle n'a pas de souvenir de ses cours d'histoire quand elle était ado. C'est pas assez. Je cherche des raisons. Mais pareil pour Aurore Berger. Hein. Je pense qu'Aurore Berger. Je pense qu'elle n'est pas très maligne. Je pense qu'elle ne se rend pas compte que anti-France, c'est un mot chargé d'histoire. Dans les deux cas, ça devrait vraiment être éliminatoire. Ouais, mais on a changé d'époque, malheureusement. Je déplore comme vous le fait qu'on a une extrême droite qui est très installée aujourd'hui dans le paysage politique, une extrême droite qui impose ses thèmes, qui impose son rythme, qui a ses groupes de presse et de médias télévisés, qui a ses maisons d'édition, qui a des partis politiques très bien installés dans les institutions, qui a peut-être bientôt un ancrage local assez prononcé. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dire un truc pétainiste en direct à la télé ne signe pas la fin de votre carrière politique. Tout au plus, c'est une polémique. Par contre, être woke, alors ça, être antiraciste, être antifasciste, pour les droits des LGBTQIA+, etc., ça, attention à ce que vous dites. C'est au programme de troisième, le régime de Vichy. Je crois que la Seconde Guerre mondiale, oui, est au programme de troisième. Programme d'histoire de troisième, avec la Shoah, l'occupation, Hiroshima, Nagasaki, tout ça, enfin, c'est des trucs que tu apprends en troisième, ouais. Enfin, tu commences à les apprendre en troisième, et après tu les retrouves plus tard au lycée, où tu rentres un peu plus dans le détail. Et la trigonométrie, évidemment, bien sûr. C'est impossible de penser qu'ils font pas exprès. Bah, je sais pas ce que vous en pensez, mais... Moi, je pense que la droite est, je pense que l'extrême droite, pardon, est tellement banalisée, est tellement dans ses petits souliers dans ce pays que, en fait, t'as un espèce de, t'as une levée des inhibitions qui existait avant. Avant, quand t'étais de droite, tu faisais un peu gaffe à ce que tu disais parce que tu voulais pas être associé à l'extrême droite parce que c'était mauvais d'être associé à l'extrême droite, c'était mauvais y compris pour ta carrière. Enfin, c'était très mal vu. Aujourd'hui, je ne change pas grand-chose. Dire un truc raciste de temps en temps va pas provoquer une levée de bouclier particulière. Donc du coup, tu dis plus facilement des trucs racistes, sans que ce soit nécessairement un truc voulu, un dog whistle ou je sais pas quoi. Est-ce que ce serait pas son salut romain? Ouais, c'est un peu ça, ouais. Oui, c'est un peu ça. Un bon vieux salut nazi, quand t'es milliardaire, ça t'empêche, ça te fait pas perdre des milliards. Et ça te fait pas perdre ta proximité avec le pouvoir. Bon, c'est pas bien grave, quoi. C'est quoi un dog whistle? Un dog whistle, c'est un... Alors, vous connaissez sans doute les sifflets pour les chiens. Vous connaissez les sifflets pour chiens? Ce sont des sifflets, quand vous soufflez dedans, vous entendez pas grand-chose. Mais le chien, lui, il entend. Parce qu'en fait, c'est un sifflet qui fonctionne sur des fréquences sonores qui sont très bien entendues par l'oreille canine, mais très mal par l'oreille humaine. C'est ça qu'on appelle un dog whistle. C'est un sifflet qui est entendu spécifiquement par le chien. Et en politique, un dog whistle, c'est un truc que vous dites qui ne va pas être compris par la majorité de la population, mais qui va s'adresser volontairement à une frange de l'auditoire, qui, lui, va très bien comprendre ce que vous avez dit. C'est comme une private joke. C'est un peu comme une private joke. C'est un peu comme une private joke. Une private joke qui va faire rigoler que quelques personnes dans la salle, parce que eux seuls ont la ref. Mais les autres n'ont pas la ref. Et ben c'est ça un dog whistle en politique. C'est un truc que vous dites à la télé... que le journaliste en face de vous il va pas comprendre, mais que par contre les gens devant leur télé à qui vous voulez vraiment vous adresser, eux, ils l'ont. On se comprend. On se comprend. T'as la ref ? T'as la ref. Voilà. C'est ça qu'on appelle un dog whistle. C'est une private joke de nazi en général. Oui, voilà, c'est ça. C'est une private joke de nazi. Ah, ah, exactement. Exactement. Du coup, on dit quoi pour désigner les gens qui sont contre la France si on ne peut pas dire anti-France ? Mais tu peux dire anti-France si tu veux, c'est juste un truc antisémite. Après, tu fais ce que tu veux. C'est toi qui vois. Tu décides. Puis sinon, je sais pas, tu utilises le vocabulaire de la langue française pour trouver d'autres manières de le dire. Contre la France, oui, voilà, contre la France. C'est comme, c'est comme les lettres SS. Voilà, c'est un peu marqué politiquement. Je vous le dis, hein, c'est un peu marqué politiquement. Vaut mieux éviter. Comme nom d'un parti, par exemple, vaut mieux pas faire ça. Voilà. C'est si connu que ça, anti-France? J'en sais rien, je sais pas, je sais pas. C'est connu par les gens qui ont de la culture politique et de la culture historique. Voilà, il y a des trucs comme ça, on le sait. C'est comme le mot apparatchik. Apparatchik, c'est un mot russe qui désigne les responsables de l'appareil communiste soviétique, voilà, les apparatchiks, les bureaucrates, machin. Bon, voilà, c'est des mots qui sont marqués. C'est des mots qui sont marqués historiquement. C'est des mots qui désignent quelque chose historiquement. On peut les détourner, les réutiliser si on veut, mais il faut savoir à quoi on fait référence, quoi. Et en l'occurrence, anti-France, voilà, c'est Charles Maurras. C'est Charles Maurras. Je sais pas quoi vous dire de plus. L'un des pères de l'extrême droite contemporaine. Français de papier, ouais, français de papier. Les français de papier, c'est les juifs. Voilà, je suis désolé, c'est un vieux truc d'extrême droite, antisémite, profondément antisémite, qui désigne les juifs comme étant pas vraiment français, au fond, en vrai. Pareil pour la double appartenance. Si vous entendez un jour quelqu'un dire « on ne peut pas avoir de double appartenance, on ne peut pas être français et être d'un autre peuple », c'est un des trucs les plus antisémites, classiques. Double allégeance. Oui, double allégeance, t'as raison, c'est la double allégeance. Double appartenance, ouais, c'est plutôt la double allégeance. Double allégeance, c'est un marqueur antisémite historique, classique, bête et méchant. Les clichés sur les apatrides. Ouais, les clichés sur les apatrides, pareil, le mot apatride. Alors, apatride, en droit, ça désigne quelqu'un qui n'a pas de nationalité du tout. C'est un réfugié qui n'a pas de pays de ressort. Mais apatride, en politique, ça désigne historiquement les Juifs. Les Juifs qui sont cette diaspora, ce peuple pas suffisamment ancré dans les réalités culturelles, historiques, enracinées des populations européennes, blablabla, blablabla. Bref, une vieille rengaine antisémite. Pour t'expliquer que les juifs ne sont pas chez eux, chez nous. Voilà, c'est un vieux truc de l'antisémitisme classique. Les déracinés, les élites mondialisées, ouais. Déracinés, élites mondialisées. Le sang des enfants aussi. Ça aussi, tu retrouves ça, tu sais, dans tous les délires complotistes. Dans tous les délires complotistes autour du Covid, t'avais beaucoup de ça. Sur les médecins juifs qui font des prélèvements de sang sur les enfants pour l'adénochrome ou je sais pas quelle connerie. C'est un vieux truc antisémite, ça. Alors je crois que ça remonte au 15e siècle en plus. Hein. C'est à l'époque des Borgia et tout. Déjà, il y avait l'espèce de rumeur comme quoi on avait pris du sang d'enfant, je sais pas quoi. Enfin. Les puits empoisonnés aussi, ouais. C'est quand même Epstein. Ouais, Epstein, ouais. Putain, on fait de la modération sur les commentaires YouTube de la dernière vidéo d'Edoui qui a parlé de l'affaire Epstein. Putain. Il y a eu un paquet de commentaires antisémites. Donc, tout ça pour vous dire quoi? Tout ça pour vous dire, méfiez-vous. Méfiez-vous avec les vieilles rengaines antisémites classiques que nous ne connaissons que trop bien et qui nous fatiguent. Il y a un super docu sur Arte qui s'appelle L'histoire de l'antisémitisme. Oui, regardez-le, regardez-le. Regardez le dernier. Documentaire, c'est pas le dernier parce qu'il date d'il y a quelques années, mais ça s'appelle L'histoire de l'antisémitisme. C'est sur la chaîne d'Arte sur YouTube. Allez la regarder. Allez la regarder, c'est un super documentaire. Méfiez-vous des sifflets, ouais. Méfiez-vous des réflexions antisémites comme ça que vous entendez. L'air de rien, que vous pouvez lire sur internet comme ça. Quelqu'un qui lâche l'air de rien, des trucs sur l'anti-France, sur la double allégeance, machin, le sang des enfants. Merci, ton gentil grec. Merci pour ton sub. Merci pour vos abonnements, les amis. Allez, on va faire un raid chez l'ami Clément Viktorovitch. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui, chers amis. Merci. Venez sur le Discord pour continuer ces discussions, évidemment. Point d'exclamation Discord. Merci d'être venu sur ce stream. Demain, Backseat. Je rappelle que cette semaine, Backseat a lieu demain, mardi, à 19h. On sera en direct de Toulon, en partenariat avec Libération, pour une émission exceptionnelle sur le thème de l'extrême droite dans les élections municipale. Merci à toutes et à tous d'avoir été là. Merci les copains pour votre soutien. Je vous fais des gros bisous. Bonne suite de stream chez Clément. À très bientôt.